L'objectif de cette réunion est de partager nos bonnes pratiques, d'échanger sur les actions déjà mises en place dans nos communes, voire de trouver ensemble de nouvelles solutions pour que nos espaces publics soient de véritables lieux de vie respectés par tous. Donc pour animer cette session, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Kuffer et Monsieur Rigomier, donc de la société Animaux Concept, que je remercie vraiment pour leur contribution. Et donc, vous pourrez tous librement intervenir dans la salle si les représentants de Chenille Service arrivent. Ils ne sont pas encore arrivés.
Ils sont là.
Ah, pardon. Bonjour, monsieur, vous êtes là également. D'accord, donc vous nous éclairerez bien sûr en cas de besoin. Vous n'hésitez pas les uns et les autres à prendre la parole. Cette matinée est très interactive. Et puis, je vous remercierai en fin de réunion de nous remettre remplie la petite fiche d'évaluation que vous avez trouvée sur vos chaises. Voilà, et vous intervenez bien sûr très librement. Bonne matinée à vous toutes et tous. Franck, peut-être un petit mot avant de céder la parole à Animaux Concept.
Très rapide, merci beaucoup, Rosemary. Effectivement, c'est un sujet d'actualité, puisqu'avant les élections municipales de 2014, je crois que les citoyens seront particulièrement intéressés de savoir que leurs trottoirs sont propres. Et c'est un sujet qui fait largement débat. C'est pour ça que le syndicat des directeurs généraux a accepté volontiers, dans le cadre de notre partenariat général, de patronner les invitations à cette réunion. Je ne serai pas plus long, je suis intéressé comme tout le monde, et mes collègues de Jarville, représentants du maire, monsieur l'adjoint, et la police municipales sont également présentes, donc voilà, on va participer à ce débat avec beaucoup d'intérêt.
Merci beaucoup. Madame Kuffer, monsieur Rigomier.
Bonjour à tous, donc Gilles Rigomier, donc, je suis gérant de la société Animaux Concept. Juste pour présenter notre entreprise, on est aujourd'hui leader en France dans le traitement d'éjection canine. Je sais, c'est pas un métier très noble, mais bon, on travaille avec un peu plus de 1000 communes en France. Pourquoi on a fait ces réunions? Aujourd'hui, on a dans notre société des vétérinaires, des maîtres chiens. On est partenaire de la Société Centrale Canine depuis des années et on souhaitait avoir une approche un peu plus globale du chien. La propreté, bien sûr, au cœur de notre présentation, mais partager avec vous une vision un peu plus globale, un peu plus intégration positive aussi du chien, qui nous paraît très important. Donc d'où l'origine de ces réunions. On en fait un peu partout en France actuellement. Et l'idée, c'est de communiquer sur comment on peut mieux vivre avec les chiens. On y est sensible et on trouve qu'il y a assez souvent une vision très très négative des chiens, alors qu'ils ont aussi des rôles positifs. Et je pense que ça, le but de la réunion, c'est un peu de vous dire il y a des solutions pour la propreté. Ça permettra d'avoir après, une fois qu'on aura traité cette problématique, une vision plus positive du chien, je pense, dans les communes. Et pour nous, ça nous paraissait très très important. Voilà. Donc dans ce cadre-là, je pense que ça serait bien ensuite que chacun puisse se présenter, parce qu'on ne vous connaît pas. Et puis justement pour favoriser aussi l'échange, favoriser ce qu'on disait tout à l'heure, partager votre expérience. Je pense que vous venez de plein de communes différentes, vous avez tous un vécu, donc on est à l'écoute, on apprend aussi beaucoup de vécu de chaque commune et de ce qui a été mis en place. Donc je passe la parole à Martine, donc, qui intervient et qui va se présenter avec nous.
À tous. Donc, en ce qui me concerne, je fais partie de la société Animaux Concept et je suis chargée par Animaux Concept d'animer les réunions d'information que nous avons aujourd'hui. Nous en avons déjà fait quelques-unes en France, notamment sur Toulouse, Lille, Montpellier. C'est toujours très intéressant dans la mesure où il y a un échange entre les différentes communes sur ce sujet de la déjection canine. Donc ce que je vous propose, comme l'a demandé M. Rigomier, si on pouvait faire un tour de table pour vous connaître un petit peu mieux avant de commencer.
Je vais me mettre là parce que sinon je vais me
tourner. Donc, Michel Néron, conseiller municipal à Herceran. Je suis fortement intéressé par cette réunion, puisque je fais partie de la commission environnement de Herceran. On a mis en place justement des mesures pour les déchets pour nos animaux. Alors, je suis fortement intéressé, c'est surtout par les deux premières questions, la communication et puis. Disons le devoir citoyen à faire confronter aux gens. Voilà.
Okay.
Oui, donc son nom Didier, secrétaire de mairie de Champs-de-Lise. Voilà, pas grand chose à dire, mais j'espère avoir des solutions à la fin d'avril.
Bonjour, Céline Beff, police municipale de Maxéville. Donc on a pareil des problèmes d'éjection dans notre commune. On fait pas mal de com dans le journal local, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc on aimerait avoir d'autres solutions éventuelles pour arrêter ce massacre dans les rues.
Bonjour, Julie Neuville à la mairie de Maxéville au service communication. Donc l'objectif pour moi, c'est de pouvoir soutenir l'action de Céline au quotidien et de trouver peut-être d'autres moyens de communication. Alors certes, il y a le magazine municipal, mais sur les réseaux sociaux, voilà, les sites internet, et trouver des angles de communication peut-être un peu qui interpellent un petit peu plus les habitants et qui vont un peu plus éveiller leur conscience citoyenne.
Oui, bonjour, Philippe Meillet, la commune de Lenoncourt. Donc je suis employé communal à Lenoncourt et je m'occupe des espaces verts. Donc je suis concerné par ces problèmes d'éjection.
Bonjour, c'est Jean Marchal, maire de Josainville. On est concerné comment responsabiliser et éduquer les maîtres qui, au lieu d'avoir un chien, maintenant en ont deux, voire trois, dans les petits appartements. Alors vous voyez ce que ça peut donner.
Bonjour, Inès Milcroco, déléguée environnement Dieu-Loire. Donc on a tous les mêmes problèmes malgré la mise en place de Toutounet. Donc on en est toujours là, quoi. Voilà.
Bonjour, Maria Vitello, conseillère municipale à Pulnoye. J'imagine que comme tout le monde, on a tenté beaucoup de choses et je voulais savoir si vous aviez des retours d'expérience de communes où quelque chose a été mis en place et où ça a fonctionné. Donc voilà.
Bonjour, Nathalie André, responsable de la police municipale de Jarville. Donc je vais laisser mon adjoint s'exprimer, bien sûr.
Bonjour, Jean-Claude Vigneron, adjoint à Jarville, chargé du cadre de vie. Je crois qu'on a tous les mêmes problèmes, hein, qui viennent d'être décrits. Jarville, c'est une commune essentiellement urbaine. Et bien sûr, on a des trottoirs. Bon, il faut qu'on partage l'espace public entre les piétons, les voitures. Donc entre les mauvais stationnements, plus les crottes de chiens sur les trottoirs, c'est vraiment très difficile de vivre en ville.
Daniel Potel, adjoint à la mairie de Lévis de Nancy. Contrairement à mon voisin, moi je suis une commune rurale, c'est-à-dire que j'ai des habitants qui se croient en ville tout en étant à la campagne. Et effectivement, il y a encore des agriculteurs, il y a encore des animaux, donc il n'y a pas que les éjections canines, mais il y a encore un certain nombre d'autres problèmes autour de tout ceci.
Oui, bonjour, Frédéric Dobac, la société Chenille Service. Je suis responsable régional.
Oui, bonjour à tous, Jean-François Fontenot, donc représentant de Chenille Service, et donc, nous sommes un des acteurs de la filière animale, puisque de nombreuses collectivités nous confient leurs obligations réglementaires, s'agissant de la divagation des animaux, entre autres. Et donc à ce titre, bien sûr, on est confronté nous aussi à des problèmes de propreté et des problèmes de voisinage un peu classiques liés aux animaux.
Christophe Sabat-Saigaray, chez une service aussi, et rattaché au siège.
Christelle Hermal, mairie de Blénaud-les-Potamousson, au même titre que tout le monde, on rencontre les mêmes problématiques et on est dans l'attente de solutions éventuelles.
Christelle Bayard, mairie de Nancy. Donc, nous, on a mis en place une politique sur l'intégration de l'animal dans la ville depuis 2003. Et on est là plutôt pour des échanges d'expériences.
Pascal Fourmange, service proximité de la ville de Nancy.
Ludovic Mangin, service cadre de vie de la mairie de Nancy.
Muriel Gérard, secrétaire de mairie de Harvey. Je recueille régulièrement des plaintes de citoyens. Donc, des
troupes
de chiens sur les trottoirs.
Pourtant,
c'est la campagne.
Guy Bouvier, maire d'Harouet. Nous, on est venus pour savoir comment dresser les propriétaires de toutou.
Raphaël Arnoux, mairie de Mondreville, adjoint à l'environnement.
Alors nous, après plusieurs informations dans le bulletin municipal et des flyers dans les boîtes aux lettres, on n'est toujours pas arrivé à faire que notre commune reste propre. Alors, c'est pour ça que je viens.
Bonjour, Marie-Jean Bonafini, la police municipale de Champigneul. Bah, comme tout le monde, on a les mêmes problématiques. Par contre, les gens n'aiment pas ramasser. Ils trouvent que le contact... Alors moi, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre moyen pour ramasser les déjections? Bon, il y a les camisettes, il n'y en a pas partout. Mais je veux dire, quand il y a un excrément sur le trottoir, ils hésitent à ramasser. Donc quand on est là, ils vont le faire, parce que sinon ils disent qu'il y a une verbalisation éventuelle derrière. Mais je veux dire, ils disent que le contact, hein, quand c'est des petits sachets, ils n'aiment pas. Alors, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions des cartons ou...
Oui, oui, on en a. On va essayer.
C'est vrai? Donc on essaye de trouver la solution.
Avantage.
Vous l'attendez aujourd'hui.
Gérald Bigaré, responsable de la police municipale d'Unéville. Donc nous, on a en place des canisettes, on a en place des sachets, mais ça n'empêche pas qu'on a le même problème que dans toutes les communes. Donc il n'y a qu'une sanction qui peut marcher, donc on vient souvent, c'est pas évident. Voilà.
René Wagner, donc de la commune de Xure, 130 habitants, nous sommes dans le milieu rural, à proximité de Unéville, et on a les mêmes soucis qu'en ville.
Donc Grégory Biotz, directeur général des services de la ville de Pompey. Donc on a mis en place une communication par différents biais, donc les bulletins municipaux. On avait même mis des affiches avec des petits chiens en disant que c'était verbalisable. Donc principalement dans les espaces verts, parce que mes collègues ils en prennent plein la figure, c'est bon qu'on puisse dire. Donc voilà, nous on a mis en place c'est des petits sachets en fait avec des petites pinces pour que justement les personnes ne touchent pas, mais ça ne fonctionne pas non plus. Pourtant c'est gratuit. Donc voilà, donc après j'avais entendu parler a priori qu'il y aurait peut-être une taxe sur les chiens par rapport à ça, donc ça va justement aussi. Peut-être l'avenir.
En Belgique.
Belgique-Hollande.
Agnès Viver, directrice générale des services à Champigneul. Et donc notre maire, lui, souhaiterait qu'on la police municipale verbalise davantage. À chaque réunion qu'on a, il leur demande quelques PV pour inciter les autres propriétaires à être plus vigilants, mais ça ne fonctionne pas. On a tout ce qu'il faut, les canicides, les sachets, en plus, ils sont souvent dévalisés là où ils sont installés, donc c'est pas forcément... Souvent, les boîtes à sachets sont vides, donc le problème reste entier. Et voilà. Je pense qu'il y a d'autres moyens à trouver. Il y a d'autres pays où il me semble que les trottoirs sont plus propres. Et je me demande comment ils font.
Anne-Mathilde Coulon, directrice, et Laurent Alezon, responsable du service en mission.
Et propriétaire de chiens.
Ah, ah, bien.
Propriétaire au pluriel.
Mais je ramasse ça, absolument.
Bien, merci beaucoup. Non, on va essayer des réponses, une réponse magique, je pense qu'il n'y en a pas vraiment, mais on va partager ensemble déjà notre expérience et l'expérience qu'on a eue avec d'autres communes. J'ai quand même des villes où ça fonctionne, en mettant en place un plan d'action de début à la fin et qui fonctionne. Donc on va essayer de répondre à toutes vos questions le mieux possible. Donc, la présentation, c'est trois parties. D'abord, des généralités sur des chiffres. Ensuite, les actions, les plans d'action, la stratégie qu'on peut mettre en place, les moyens. Et puis, la dernière partie, pour aller plus loin, quelles sont différentes solutions pour justement intégrer l'animal dans la ville et responsabiliser peut-être un peu plus les propriétaires de chiens, comme vous le souhaitez. Alors... Il y en a qu'il faut appuyer.
c'est sur la petite flèche, ah, il faut appuyer pour faire défiler les diapos. Je vais simplement remettre en bas les diapos.
Excusez-moi, ça va aller.
Ok, merci. Voilà. D'après vous, est-ce que vous savez le nombre d'animaux de compagnie, alors tout compris, hein, chiens, chats, poissons, etc., que nous avons en France? Est-ce que vous avez une idée du chiffre? Combien? D'accord, vous êtes prêts, effectivement. 63 millions d'animaux de compagnie en France. Chiens, chats, oiseaux, poissons. Et on est, je l'ai vu ce matin d'ailleurs sur les infos, 64 millions en France d'habitants. Donc un animal de compagnie par habitant, c'est déjà pas mal. En ce qui concerne les chiens, 7 millions 4 et 11 millions de chats. Alors il y a une légère baisse de chiens, mais notamment pour des raisons de contraintes, parce qu'il y a moins de contraintes de posséder un chat qu'un chien. Et la tendance est plutôt sur des petits chiens plutôt que sur des gros chiens depuis quelques années. Je vais avoir du mal avec trois avec le micro. Alors, 21% de familles qui possèdent au moins un chien et 18% des familles qui possèdent deux chiens et plus. Le profil, c'est en général 75% en jardin et 25% sans jardin, en appartement. On pourrait penser que c'est les 25% de propriétaires de chiens qui n'ont pas de jardin qui vont dans la rue pour faire les déjections canines, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même beaucoup de propriétaires de chiens qui ont un jardin qui font faire qui vont se promener dans la rue et qui font leur déjection canine dans la rue pour éviter de salir le jardin.
Hein? C'est le chien en général qui ne veut pas salir son jardin, c'est pas le maître. Hein?
C'est le chien, oui. Mm-hmm. C'est le chien, le maître,
c'est son champ débat.
Quelquefois aussi, mais c'est vrai que les chiens préfèrent ne pas avoir de déjection sur leur territoire, on va dire. Et la taille des foyers en général. Il y a 46% des foyers qui sont de 3 personnes et plus, des possesseurs de chiens. Alors on trouve beaucoup plus en milieu urbain qu'en milieu rural. 65% des propriétaires de chiens, des chiens sont en ville plutôt qu'à la campagne. Et notamment dans les villes, il y a 21% des chiens qui sont dans les villes de plus de 100 000 habitants. Hein, donc, et notamment, si on parle que de Paris, Paris c'est 8% de la population canine qui est sur Paris. Donc c'est très important dans les villes, beaucoup plus que dans les milieux ruraux. Alors pour parler de la région Est, vous voyez, ce n'est pas une des régions les plus peuplées en chiens. Il n'y a que 8% en fait de chiens sur les 7,5 millions qui sont dans la région Est, donc environ 600 000 chiens dans vos régions. La première région, comme je vous l'ai dit, c'est Paris et la région parisienne, où il y a le plus de chiens. Puis après l'Ouest, le Sud-Ouest et les régions méditerranéennes. Alors vous avez Si on regarde la mentalité des propriétaires de chiens, il y a quand même une évolution depuis quelques années. Des propriétaires un peu plus responsables, qui font tatouer, stériliser leurs animaux. Ils sont beaucoup plus conscients du bien-être du chien sur le développement de l'enfant, par exemple. Et les causes de non-possession de chiens sont vraiment que des causes de confort. Puisque la plupart des gens se rendent compte que pour partir en vacances, c'est un peu compliqué. Donc il y a quand même une prise de conscience que la possession d'un chien, il y a une certaine responsabilité à avoir. Par contre, comme vous pouvez le constater, la déjection canine vient très très loin dans la préoccupation des propriétaires et des habitants. Soit ils pensent qu'il n'y a pas de problème, soit ils pensent qu'ils vont ramasser la déjection canine très rapidement, mais je pense que c'est vraiment une préoccupation qui leur importe peu. Alors, en dehors de ces chiffres, et en dehors du problème qui nous occupe aujourd'hui, des déjections canines et des nuisances en fait que ça peut préoccuper, il ne faut pas quand même oublier les bienfaits de la relation homme-chien, parce que c'est important, et puis on le verra un petit peu plus tard, c'est quand même peut-être qu'en mettant en avant les bienfaits de la relation homme-chien, on pourra peut-être, en valorisant le propriétaire du chien et le chien, arriver à les responsabiliser davantage pour enrayer ce problème. Alors, en termes de communication, C'est sans conteste un lien social important et intergénérationnel, hein, puisque le lien se fait, la communication se fait entre l'enfant et les personnes plus âgées. L'intérêt du chien également pour les personnes seules ou âgées, ça les oblige à sortir, ça les oblige à avoir une activité, et donc ça a des bienfaits sur la santé. Beaucoup de réconfort et donc une responsabilité aussi au niveau des enfants. Des enfants qui possèdent un chien vont peut-être être beaucoup plus conscients, et surtout si on les sensibilise, on le verra au niveau de la com, dans la communication, si on arrive à sensibiliser les enfants, ça va être des prescripteurs importants vis-à-vis des adultes et vis-à-vis des parents. D'autre part, le chien est également, c'est un enrichissement au niveau de la relation. Vous avez parlé tout à l'heure des clubs canins, hein, des écoles de chiots. Dans les clubs canins, il y a tout ce qui est agility, footing. Animaux Concept est un spécialiste de l'agility. Et donc avec il y a les chiens utiles aussi, les chiens sauveteurs, la douane, tous les chiens d'aveugles. On a les chiens thérapeutes également. On a pu s'apercevoir que les chiens pouvaient avoir ont un odorat 10 000 fois supérieur à l'homme. Et de par le fait, ils arrivent à détecter certaines allergies, certaines crises d'épilepsie, par exemple. Ils peuvent identifier en amont des crises d'épilepsie et certains types de cancers. Alors, c'est juste une veille. Hein. Bien sûr, ils ne sont pas guérisseurs dans l'approche. Hein, mais c'est un soutien. Et donc, toutes ces choses-là, il faut quand même en tenir compte. Tous les bienfaits, l'enrichissement du chien vis-à-vis de l'homme et du propriétaire du chien, donc ne pas, il faut le valoriser en fait le chien dans ce contexte-là, d'accord. Donc on a des acteurs, bon on en a parlé tout à l'heure, Madame en a parlé tout à l'heure, des acteurs qui sont importants pour les communes et toutes les communes avec qui on travaille habituellement, on les garde en tant que support, notamment donc la Société Centrale Canine. La Société Centrale Canine, qui est une fédération qui date de 1881, et c'est une association dont le but est d'améliorer, de conduire les chiens de race, et de faire connaître les chiens de race. Vous avez mis un numéro de téléphone direct, que j'ai noté là sur la diapo, et que vous pouvez les contacter en direct. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ce numéro. Voilà. Ça vous permet d'avoir une relation avec eux, ils peuvent vous apporter un support, que ce soit en termes de communication, mais également en termes d'outils pour vous aider à sensibiliser en fait, les citoyens de la commune. Vous avez également donc les clubs canins, ça on en a déjà parlé. Donc ça, ce sont des supports et des acteurs importants dans la démarche que vous allez avoir au niveau de la stratégie de la propreté canine en ville et de l'animal en ville. Il y a énormément de clubs canins. Vous avez un lien que j'ai noté aussi. Cette présentation, de toute façon, on vous l'enverra enfin dans la semaine. Au plus tard la semaine prochaine, par mail. Donc vous avez les sports canins. Donc la Société Centrale Canine, ce dont je vous parlais, par exemple, c'est un exemple de support qu'ils peuvent mettre à votre disposition gratuitement, que vous pouvez distribuer éventuellement lors de journées citoyennes ou de balades de chiens citoyens. C'est un petit DVD, jeu interactif, pour sensibiliser les enfants à la sécurité et à ce qu'il faut et ne pas faire avec un chien. Vous connaissiez déjà ces supports ?
Les journées citoyennes des chiens, c'est quand ?
C'est vous qui l'a décidé en fonction des communes. Quelque chose d'important, on verra ça tout à l'heure, justement, ça peut faire partie de d'outils et de moyens pour la communication sont pas négligés avant de passer à la verbalisation justement.
Mais là, vous ne mettez rien en place avant les élections. Hein. Parce qu'avec la communication période électorale, cherchez pas les problèmes.
Vous allez à Paris au mois de novembre, au Salon des maires. Vous avez justement un stand là où vous pouvez avoir le DVD et toutes les informations.
Et ils nous donnent les stats par commune. Moi, je suis allé sur le stand du Salon des maires. Ils étaient communes et ils sortaient directement les stats avec le nombre de chiens, les chiens, son bluff et tout ça.
Il recense tous les chiens qui sont pucés, donc aujourd'hui on parle de puces, et tatoués, donc on a échangé avec eux, ça représente environ 90% de la population aujourd'hui qui est tatouée. Donc ça vous donne une vision assez précise pour votre commune du nombre de chiens présents à 90%. Voilà. Donc nous, sur le Salon des maires, justement, on a un stand partagé avec la SCC, puisque cette année on va faire un pôle vraiment global canin. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour changer sur différents aspects justement de l'approche canine.
Je voudrais juste te mettre un petit bémol sur les chiffres, parce que en gros, là, sur les chiffres que vous avez donnés, il faut savoir que vous êtes sur les animaux identifiés.
Oui. Donc, aujourd'hui en France, on a à peu près donc, entre 55 et 57% des chiens qui sont identifiés et à peu près 3% des chats sur le territoire national. Donc ça veut dire que quand on fait évidemment une approche de la problématique animale, on ne prend pas en compte les animaux qui ne sont pas identifiés. Quand on parle donc effectivement du rapport entre la zone urbaine et la zone rurale, il est évident qu'en zone rurale, on a à peu près deux fois moins d'animaux qui sont identifiés qu'en zone urbaine. D'où les éléments que vous évoquez. Donc ça veut dire qu'après, à travers aujourd'hui les fichiers, on est à peu près capable d'avoir la photographie en gros des animaux et des pourcentages que je viens d'évoquer. C'est important de le signaler parce que évidemment c'est quelque chose qui évolue aujourd'hui, mais évidemment la tendance est un peu longue. Depuis maintenant le 1er janvier 2012, il y a une obligation d'identification pour les chats, ce qui n'était pas le cas précédemment, et donc cette obligation devrait permettre une amélioration, on espère aussi, donc évidemment du contrôle de la population et de la maîtrise un peu de cette population animale.
Voilà, c'est vrai que sur le nombre de chats, effectivement, parce que comme toute statistique, c'est basé sur un fichier d'identification. Effectivement, tous ceux qui ne sont pas identifiés ne sont pas nommés là-dessus. Bon, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait quand même une certaine une tendance en fait que les propriétaires de chiens de plus en plus font identifier leurs animaux. Notamment les chiens.
S'agissant des chiens, l'obligation date plus de 10 ans. Et on a vu qu'en 10 ans, évidemment, on est passé à peu près de 20% de chiens identifiés, aujourd'hui à 57%, avec évidemment de fortes disparités sur le territoire national. Mais c'est vrai, comme le disait monsieur, effectivement, à l'occasion du Salon des maires, vous pourrez, je pense, auprès de la SCC et auprès aussi du stand que nous avons avec le Syndicat national des vétérinaires et l'ICAD, donc avoir tout un tas d'informations sur évidemment les animaux qui sont dans des communes, et donc bien sûr même les animaux catégorisés, parce que ça aussi c'est un phénomène assez important pour les collectivités, savoir s'il y a des chiens de première et deuxième catégorie sur leur territoire.
Ceux-là, ils sont encore moins déclarés, malheureusement. Enfin, heureusement, par rapport à la loi, ils devraient, mais ils sont très très peu déclarés.
Et bon, bien là. Merci.
Et d'ailleurs, la société Centre Canine peut communiquer le nombre d'animaux identifiés, bien sûr, de chaque commune, si vous leur posez la question. Ils ne nous diront pas, nous, mais ils vous donneront les chiffres si vous leur posez la question.
Là, j'entends 57 ou 53% de chiens identifiés. Ça veut dire que c'est autant de chiens non vaccinés, alors? Parce que, pour moi, un chien qui n'est pas identifié...
Il n'est pas vacciné.
C'est qu'il n'est pas vacciné parce qu'il ne va pas chez le vétérinaire.
Normalement, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui peuvent faire vacciner sans l'identifier.
Un vétérinaire doit obligatoirement identifier un animal. C'est une obligation légale.
Je sais, mais ça peut arriver.
On ne doit même pas demander l'avis à...
Il faudrait consulter, mais je pense qu'il y a des cas où le chien n'est pas identifié, vacciné. Ça arrive.
Et on ne peut pas obliger les vétos à identifier les animaux systématiquement?
Ils auront, le représentant n'est pas là, ça aurait été bien de l'avoir. Je pense pas qu'ils pourront avoir un pouvoir de rétorsion, c'est pas leur métier ni leur rôle, mais ils vont l'expliquer.
Le but, c'est de dire on préfère qu'ils viennent pour se faire vacciner et qu'ils sentent pas obligés en plus de les identifier, plutôt qu'ils sachent que forcément on va les identifier et que dans ce cas-là, ils viennent même plus les vacciner. Ouais, c'est ça leur problématique, c'est de dire si jamais on devient trop
exigeant,
ils vont même plus venir pour les vacciner et ce sera pire. Mais voilà. Mais théoriquement, la loi est celle-là. Il devrait en tout cas y avoir un signalement.
C'est d'accord. Merci.
Oui, donc le vétérinaire, c'est une profession libérale. Il va l'indiquer, hein, que c'est obligatoire, l'identification, ça sera indiqué partout. Par contre, il ne peut, peut pas avoir un rôle d'obliger un propriétaire de chien. Il serait opposé à sa vocation. Donc, il ne peut pas imposer, voilà. Malheureusement. Par contre, vous, si vous pouvez orienter les gens vers chez lui, il ne peut pas imposer.
Après, le problème, c'est qu'avec les puces, si on n'a pas des corps de puces, la personne peut nous dire si il est identifié, il n'est pas identifié.
Ouais.
Avant,
oui. Avant c'était visible.
Maintenant, avec la puce, et nous, on n'a pas. Enfin, nous, je sais qu'à la police municipale de Maxiville, on n'a pas de lecteur de puce.
Non. Mais ça peut s'acquérir.
Oui, mais il y a d'autres priorités dans le budget.
Pour les collectivités, c'est quand même pas simple. Par exemple, quand on attrape les chats et qu'on les fait stériliser, ça a quand même un coût pour la collectivité. Oui. Donc, quand vous avez beaucoup de chats, c'est quand même problématique, c'est du temps aussi pour la police municipale, parce qu'il y a quand même des arrivées strictes.
C'est pas quand même pas forcément simple. Et ça a quand même vraiment un coût pour les collectivités qui aujourd'hui, personne ne va nous donner quelque chose. Quoi. Même des fois, il y a des journaux qui sortent donc de défense d'animaux qui sont pas très positifs envers notre maire, alors qu'en réalité, il fait son maximum et notre police municipale n'arrête pas d'attraper des chats pour les amener chez le vétérinaire. Donc à chaque fois, c'est un déplacement, parce qu'on n'a pas de vétérinaire sur la commune, et ça a un coût. Donc arrive un moment, il va falloir aussi quand même se poser les bonnes questions, parce que nous, on n'a pas demandé à avoir 15 000 chats sur la commune. C'est aussi au propriétaire de se responsabiliser. L'animal en lui-même n'est pour rien, mais les propriétaires, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Et je pense que c'est pas eux qu'il faut éduquer, hein, c'est les propriétaires. Hein.
Oui. Concernant les chats, il y a aussi tout un phénomène de reproduction, et c'est pas forcément des chats qui ont un propriétaire, justement. Et c'est là où le problème est encore plus.
C'est pour ça que l'association des maires a fait 2 ou 3 articles et qu'elle vous proposait de mettre dans les bulletins municipaux, parce qu'il y a dans la tête des gens le fait que stériliser un animal, ça lui fait du mal. Alors que maintenant, tous les vétérinaires sont unanimes sur le fait que stériliser un animal, ça lui fait du bien. Et je suis justement en contact avec FR3 Lorraine parce qu'ils vont refaire passer le message. Et un message complètement idiot qui passe encore maintenant, c'est « il faut attendre que la chatte ait eu sa première portée pour la stériliser ». C'est totalement faux. Au contraire, quand c'est fait avant, c'est beaucoup plus productif et elle risque beaucoup moins d'avoir de cancer des ovaires et de toutes les saloperies qui peuvent traîner ensuite de tumeurs si elle est stérilisée avant. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore passé du tout dans la tête des gens qui estiment que stériliser un animal, c'est porter atteinte à l'animal. Alors là, je parlais des chats. Maintenant, quand vous parlez évidemment des chiens, vous avez toute une catégorie qui considère que si on lui enlève sa virilité, entre guillemets, c'est plus un chien. Ça n'a rien à voir, mais c'est une information qu'il faut faire passer et qui est longue à faire passer dans la tête des gens. Mais une fois qu'on a réussi à faire passer ces messages-là, on aura moins de problèmes justement de ces chats qui se reproduisent à des vitesses effrayantes, parce que les gens accepteront que leurs animaux qui sont soi-disant apprivoisés et qui sont soi-disant tout le temps chez eux, mais qui sortent quand même, et on sait à quelle vitesse quand ça sort, un chat, ça a une raison d'aller justement chercher quelque chose. Donc c'est ça qui est très important, c'est que les gens se rendent compte que c'est pas parce que le chat il est 80% du temps chez eux que pendant les 20%, il risque pas d'aller soit engrosser, soit se faire engrosser. Alors les propriétaires de chats, en général, il faut attention parce que ça revient chez eux et que c'est eux qui ont ensuite le problème avec les petits. Mais les propriétaires de chats, ils s'en foutent complètement parce qu'ils peuvent aller engrosser tout ce qu'ils veulent. Ils ne se sentent pas vraiment responsables. Non mais c'est important dans la tête des gens parce que quand on veut passer ensuite le message que ça va coûter à la collectivité, ils se disent peut-être faire attention aussi. Pas toujours. Vous avez quand même une frange de la population qui est sous-informée et qui est responsable. Je ne parle pas de celles que de toute façon on n'atteindra jamais, qui s'en foutent et qui continueront à s'en foutre, même si vous avez... qui sont capables, même quand vous avez la police municipale, de laisser la porte du chien et de narguer la police municipale en disant « Eh ben ramasse-toi si tu veux, mais moi de toute façon je ne le ferai pas, tu peux me verbaliser, je leur mettrai ton PV, comme tu le sais, au même endroit que la crotte du chien. Donc voilà, donc on a une
fois,
voilà, on a une frange de la population qui, que de toute façon, avant de la récupérer, ça mettra du temps. Mais par contre, on a une partie de la population qui est simplement sous-informée et qui, rien que ça, permettrait de faire un peu de progrès.
Si vous permettez, le problème du coup est, bon, les personnes aiment bien avoir des animaux, mais dès l'instant où on doit les faire suivre, on ne les fait plus suivre. Parce que pour stériliser un animal, il y a quand même un coût. Et moi, je suis dans le milieu rural, je suis désolé, mais ça ne se fait pas, ça ne se fera jamais, parce que justement, actuellement, il y a des difficultés partout. Enfin, si ça se fait, ça se fait à 1 ou 2%. Hein. Donc voilà le gros problème, c'est le coût. C'est le coût. Il y a le coût pour les communes ou les communautés, il y a le coût pour le propriétaire qui, lui, n'en a rien à faire. Voilà.
C'est vrai que ça se fait davantage en milieu urbain, en fait, cette démarche-là.
Tout est relatif.
Et en plus, les personnes qui donnent à manger aux chats, nous, on a un gros problème sur Dieu-Loire, parce qu'on a des personnes qui donnent à manger aux chats sauvages, on va dire, et ma foi, qui se multiplient.
Petite mémé qui
voilà,
va donner un
café. Alors, quand on leur dit qu'il ne faut pas,
c'est caché. Je suis dans la ville qui vient nourrir des chats. Okay.
Merci. Alors, d'autres acteurs, donc on va parler de la Société Centrale Canine. Le SNVEL, dont vous avez parlé aussi, le syndicat de l'Ordre national des vétérinaires, donc qui ont mis en place un concept mère et veto. Vous avez leur site. Et donc, ils travaillent en collaboration avec les mairies. Ils peuvent mettre en place des conventions avec la mairie pour mettre des actions en place.
Ah, juste à titre d'information, le docteur Cuvillier, qui est donc le président du SNVEL local et qui devait venir, m'a envoyé un message en me disant qu'il était d'astreinte cette nuit et que si jamais la nuit il était obligé de faire un 36 opération, il ne pourrait vraiment pas être ce matin avec nous. Et je crains que malheureusement pour lui, sa nuit ait été un petit peu chargée en opération, donc malheureusement il n'a pas pu nous rejoindre.
Donc c'est effectivement, mais c'est un support et un acteur donc, que vous connaissez et qui est important dans la démarche et dans la réflexion de la propreté également.
D'autres acteurs. On est toujours en négociation d'ailleurs avec eux, excusez-moi, on est toujours en négociation avec eux pour obtenir des tarifs privilégiés pour la stérilisation des animaux. Et bien c'est pas une mince affaire, parce qu'ils ont quand même réussi à nous faire pleurer, ces beaux vétérinaires, sur leur fin de mois. Donc, bon, on continue à négocier, et grâce à l'aide de Mme Vandamme, la présidente de la SLPA, je pense qu'on arrivera progressivement à obtenir des tarifs. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que des vétérinaires, stériliser un chat sauvage, c'est triple problème, parce que ce chat ne se laisse pas attraper. Donc il y a, pour l'ensemble du personnel, il faut prendre des précautions particulières pour réussir à l'attraper, l'endormir et autres. Et que donc c'est sûr que ça ne les intéresse pas. Évidemment, ce n'est pas une population qui les intéresse pour faire les soins. Donc ils nous expliquaient qu'ils ne pouvaient pas non plus faire des tarifs trop modiques, étant donné que ça représentait pour eux un coût qui n'était pas négligeable compte tenu du caractère sauvage du chat. Oui, mais enfin, je suis bien d'accord.
J'ai le même problème en apiculture, alors je suis bien heureux, c'est exactement pareil avec les vétérinaires. Hein. Peut-être qu'il faut établir l'ordonnance, je peux vous assurer qu'ils savent se faire payer.
Je voulais prendre la parole parce que nous, justement, on a une association qui s'appelle Chat Suffit. On leur prête des fois notre cache-piège, ils prennent les chats, ils les font stériliser, ils les remettent là où ils les ont pris. Bon, effectivement, ça a un coût. Ils ont quelques noms, pas énormes, mais ils se débrouillent avec ça, quoi. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut quelqu'un qui s'en occupe, qui les mette à manger dans la cage, qui les piège, qui les emmène, qui les fasse stériliser.
Et bon, c'est ça marche bien. C'est du bénévolat.
Ah oui, c'est du bénévolat, oui, tout à fait. Donc voilà, c'est des dons qu'il faudrait donner. Et bon, ils s'en occupent bien, ils remettent les chats par contre là où ils les ont pris, systématiquement. Les chats sans propriétaire.
Oui,
hein.
Oui, c'est ça.
C'est comme l'opération chat libre de la CRIM.
Oui, c'est ça.
Alors, malgré tout, les vétérinaires sont des acteurs importants de la commune. puisque on verra tout à l'heure, ça peut être aussi à cet endroit-là où on peut trouver des sacs ou des sachets, enfin des moyens, des ressources pour ramasser des déjections canines, puisque même si tous les chiens ne sont pas identifiés, comme on le disait, il y en a certains qui passent quand même chez le vétérinaire, donc le vétérinaire est quand même bien placé pour voir l'ensemble des propriétaires de chiens. Donc on peut, c'est vraiment des gens avec qui il faut travailler conjointement sur ce domaine-là. Également, donc, les toiletteurs, bien sûr, puisqu'également les toiletteurs font partie des acteurs de la filière canine qui sont importants dans vos communes. Alors, on va parler de deux choses un peu plus... Bon, le petit déjeuner est passé, donc je pense qu'on peut aborder le sujet des déjections canines. La déjection canine, je pense que vous n'imaginez pas, même si vous le supportez tous les jours dans vos communes, les kilos et les kilos que ça peut représenter dans une commune et sur l'année. Vous avez une idée un peu de la quantité que ça peut... Peut-être messieurs, là-bas, non ?
Kilos de crottes par chien par an.
Au niveau de la commune de Bâle, il y a une dizaine d'années, c'était 6 tonnes.
Par an.
Et en Suisse, il n'y a pas trop de chiens qui se promènent, entre guillemets.
6 tonnes par an, oui. Là... alors, les communes, on a les chiffres aussi. Pour certaines communes qui nous ont donné les chiffres, donc j'ai bien noté ce que vous nous disiez là, monsieur, parce que bon, les chiffres selon les communes peuvent différer. Ceci étant, un chien moyen d'environ 17 kg va produire 66 kg de déjection canine par an, et un chien un peu plus important, de moyenne de 35 kg, 128 kg par an. Donc, vous imaginez. Donc, on a pris, pour faire les calculs, après, ce qu'on fait pour les villes, on prend une moyenne de 80 kg par an de déjection canine, en fonction du nombre de chiens que vous avez sur la commune. Comme on a vu qu'environ 25 à 30%, alors, des chiens identifiés, bien évidemment, vont dans la rue pour faire leur déjection canine, ça peut permettre de mesurer ce que vous avez dans vos rues par an. Alors, quelques exemples là, en termes de volume. Donc, sur la ville de Paris, c'est 7200 tonnes par an d'éjection. 1300 tonnes sur une ville comme Besançon, 218 000 habitants, et 250 tonnes par an. Et vous nous disiez 6 tonnes à Bâle.
À Bâle, il y a une dizaine d'années.
Une dizaine d'années, oui.
En fait, ils ont fait l'étude parce qu'ils ont des bacs à sable.
Oui. Bonjour.
Bonjour.
Donc c'est quand même très très important. D'ailleurs, la dernière réunion, il y a une intervention qui était assez intéressante, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui parlait justement du recyclage de la déjection canine. Parce que c'est vrai qu'on parle de recyclage aujourd'hui, du papier, du plastique, des boîtes de conserve. La déjection canine pourrait être un axe de réflexion sur le recyclage, dans la mesure où c'est une matière qui pourrait être... On n'arrive pas encore déjà à mettre du papier dans les poubelles jaunes, donc je ne sais pas si on pourrait espérer un jour...
Par contre, les bactéries pour recycler existent. On a fait des tests avec l'Université de Toulouse et on peut recycler des déjections en un compost de qualité. Je connais pas les valeurs de ce compost, mais c'est pas odorant et c'est tout à fait réalisable techniquement. Sauf qu'il faudrait créer une filière séparée avec que de la déjection, avec des sacs biodégradables, mais ça serait techniquement réalisable aujourd'hui. Après, créer une filière séparée, je ne suis pas sûr que ce soit réalisable.
Ça va être compliqué.
Je voudrais vous accueillir, madame, qui venait de nous rejoindre, donc journaliste de l'Est Républicain. Merci de nous rejoindre et de vous intéresser à cette question qui préoccupe beaucoup les maires, qu'ils soient ruraux ou urbains. Et vous arrivez juste pour une diapo édifiante en termes de chiffres.
Je disais que 80 un chien moyen, enfin en moyenne, émet 80 kg de déjection canine par an. Okay. En termes de coûts aussi, parce qu'il faut parler de coûts, quelques chiffres. Donc là, tout dépend de ce que des moyens et des ressources qui ont été mises en place, bien sûr. La ville de Saint-Ouen a calculé que ça lui coûtait à peu près 100 € par habitant. La dernière fois, il y a une mairie à Montgeron, dans la région parisienne, qui nous disait qu'il avait fait le calcul par rapport au nombre de chiens de sa commune, identifiés, j'entends bien, que ça lui coûtait 8 € par chien. Hein, donc c'est un chiffre qui est intéressant parce que c'est très récent. Et par contre, sur la ville de Lyon, c'est un budget de 580 000 euros, mais la ville de Lyon a choisi de mettre des motocrottes en place. Et il faut savoir qu'une motocrotte coûte environ 30 000 euros, donc, sans parler de l'investissement humain derrière. Donc on en parlera, c'est une solution. Là, c'est plus et c'est moins. Est-ce que dans certaines de vos communes, vous avez mis des motocrottes, à Nancy par exemple, ou autre? Non.
On en avait, mais on les a enlevés.
Vous les avez enlevés? C'est intéressant de dire pourquoi.
En fait, on s'est aperçu que la motocrotte nettoyait bien la rue, mais elle restait toujours dans la rue. Quoi.
Pas les espaces verts.
Pardon?
Pas les espaces verts.
Si, elle allait dans les espaces verts aussi, mais elle nettoyait essentiellement un cercle concentrique. Quoi, en fait. Elle n'avait pas le temps d'aller ailleurs, qu'il fallait déjà nettoyer, etc.
Ah,
ouais. Budget, rotation.
Ouais. Une moto par rue.
Mais oui, ça.
Donc il est clair que le coût est important, vous en avez parlé. Hein. Donc il est clair qu'il faut faire un calcul au préalable avant de mettre en place. Il y a des tas d'étapes à franchir, mais c'est vrai que le calcul de l'investissement, du coût du fonctionnement et du coût de l'investissement, il est important de faire au préalable pour bien l'appréhender. Toutes les communes cherchent, et vous en êtes l'exemple, des stratégies et des solutions. Donc on va essayer de réfléchir ensemble aux différentes solutions qu'il pourrait y avoir et surtout de quelle est la stratégie qu'on pourrait mettre en place, que certaines communes qu'Animaux Concept connaît bien ont mis en place et puis partager avec vous également les expériences que vous avez pu vivre. Donc en fait, que souhaite la collectivité? Vous l'avez dit autour de table, il souhaiterait un monde parfait, en fait, hein, que le chien soit propre, hein, qu'il ait sa petite toilette personnelle avec lui, ou alors que le maître du chien soit parfaitement conscient en fait, des nuisances que ça peut produire et qu'il ramasse systématiquement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir trouver quelles actions mettre en place, quels moyens et mesurer évidemment l'efficacité. Alors, ce n'est pas simple déjà au niveau de la logique, parce que il y a de nombreux élus dans la salle, il y a aussi des services communaux et des services techniques. En fait, les perceptions et les objectifs de chaque acteur est différent. La collectivité qui est représentée par les élus souhaite plutôt d'avoir qu'il n'y ait plus de plaintes, de répondre aux plaintes, de mesurer le coût, bien sûr, il y a des budgets. L'équipe terrain, les services techniques, eux, ils ont besoin de moyens et de ressources. Et puis, pour les équipes techniques, ce n'est pas toujours très valorisant d'être chargé du ramassage de la déjection canine. Hein. Le propriétaire du chien, on sait quand même que 20%, donc on voyait là, vous parliez madame de la responsabilisation, environ 20% en fait des propriétaires des chiens sont conscients et souhaitent des solutions. Donc c'est vrai que l'objectif, ce serait d'élargir un peu cette prise de conscience. Mais les propriétaires de chiens qui veulent des solutions. Et les non-propriétaires, par contre, eux, ils payent des impôts à la ville. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que leur ville soit propre.
Mais les propriétaires de chiens aussi veulent une ville propre.
Oui, oui, hein, oui, oui. Les propriétaires de chiens aussi, bien sûr.
Et c'est aussi des fois les propriétaires de chiens.
Là, je parle surtout...
En disant que la ville est sale. Hein. Ouais. Tu as plein de crottes partout. Hein.
Ah oui,
parce que c'est
ceux qui ramassent.
Ah non, non.
Non, pas forcément.
Oh, non. Mais ils disent, il y a une crotte devant chez moi. Bah ouais, c'était votre chien.
Oui. Oui, là, c'est fort. Disons qu'en général, les propriétaires de chiens qui sont responsables, effectivement, peuvent se plaindre du non-respect de la propriété. Mais la plupart, et les propriétaires de chiens en dehors du fait qu'ils veulent leur ville propre, ils souhaitent aussi que leur animal soit intégré dans la ville. C'est aussi ça, une des préoccupations du propriétaire de chiens. Et peut-être là-dessus aussi. Oui, excuse-moi.
Par rapport aux propriétaires de chiens qui veulent une ville propre, certes, certains sont responsables, mais d'autres ne sont pas responsables et estiment que ce n'est pas à eux de ramasser, oui, et qui payent les impôts justement pour que la commune ramasse. Enfin, il y a aussi ce oui, cas-là, je pense que c'est les plus difficiles à atteindre parce que les propriétaires de chiens responsables qui éventuellement écrivent comme quoi ce n'est pas propre, à la limite, on n'a plus besoin de les convaincre puisqu'ils ramassent déjà.
Tout à fait. C'est juste pour prendre conscience, enfin vous l'avez, hein, mais effectivement que les objectifs et les perceptions de chaque acteur est différente. Donc il faut trouver les solutions qui peuvent permettre justement de répondre à l'ensemble de ces préoccupations. Vous voulez dire quelque chose ?
Je voulais juste en parlant des propriétaires, donc c'est 20% en France de la population est propriétaire de chiens, ce qu'on a vu avant. Je pense que quand on a lu des enquêtes aussi faites par la Sofresse, à plus de 90%, ils disent qu'ils ramassent. On sait que ce n'est pas la réalité. Donc les enquêtes traduisent pas toujours la réalité. Mais en tout cas, quelque part, il y a une mauvaise conscience quand même qui est présente derrière, automatiquement. Donc je crois qu'il faut continuer à appuyer. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y aura toujours une frange incompressible, non respectueuse, quoi que vous décidiez. Alors après, quand ils vous disent ils payent, enfin moi je suis commercial, ils payent des impôts, donc il faut que ça soit propre devant chez eux. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de taxe chien. D'autres pays d'Europe, donc Belgique, Hollande, il y a une taxe chien. Donc là, on peut dire qu'il y a un impôt spécifique. Ce n'est pas le cas en France pour traiter le chien. Donc leur argument, quelque part, ne tient pas vraiment, puisqu'il n'y a pas une démarche spécifique de taxation du propriétaire de chien. Et après, si on va dans le positif, je pense qu'on revient sur si vous avez un club pas très loin, essayer de pousser, parce que leur problématique, c'est pas forcément la déjection, mais quand ils ont un chiot, ils ont quasiment tous la problématique d'éducation, de le maîtriser, et ça, c'est quelque chose qu'ils veulent résoudre, et dans le club, ils vont trouver autre chose aussi, donc le respect. Donc je pense que c'est très important d'en parler, d'essayer dès le début, par le chiot, de les orienter vers de l'éducation, et en général, avec l'éducation, il y a la propreté. À titre d'exemple, juste pour finir là-dessus, on a fait un gros événement à Saint-Étienne où il y avait 220 propriétaires de chiens club, donc c'était sur le palais des congrès à Saint-Étienne. On fait le bilan à la fin du week-end, et il n'y avait pas une seule déjection par terre. Et on a dit oui, parce que dans les clubs, ça fait partie de l'éducation. Tous les maîtres formateurs, ils ramassent, c'est systématique. Voilà, donc poussez à... Excusez-moi, allez-y.
Dans les clubs canins, enfin, quelle est la proportion en fait, des maîtres de chiens qui participent justement à ces clubs, à des associations, etc. Est-ce que vous avez des chiffres ?
Alors, bon, là, il n'y a pas les représentants de la SCC, donc je ne suis pas spécialiste du domaine. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a entre 800 et 1000 clubs en France. Donc, club, quand je parle de club, là, c'est de clubs de sport canin, hein, donc qui font l'école du chiot, l'éducation. En moyenne, par club, on est entre 50 et 100 adhérents. Donc, on va estimer... 50 à 100 000 personnes qui... Alors, le problème, c'est qu'il y a... Dans les clubs, il y a un noyau dur, ce qu'on appelle le président, les éducateurs. Et après, il y a une population mouvante, justement, donc par l'école du chiot, tous ces gens qui viennent prendre 1, 2, 3 cours d'éducation et qui, après, repartent dans la nature. Et c'est vrai qu'il faut aussi, eux, les... C'est bien, parce que c'est des moments où ils vont... on va quand même leur parler de propreté, de comment tenir son chien en laisse, comment le rendre... on va dire citoyen, donc ça va faire partie. Donc il y a une population très mouvante, on va dire qu'en moyenne, en permanence dans les clubs, il y a 70-80 000 chiens, et je vous dis, il y a des gens, ils viennent une, deux, trois leçons et ils disparaissent. Donc c'est difficile de dire combien de gens sont réellement passés dans les clubs avec leurs chiots pour de l'éducation. Et bon, et en plus je ne suis pas spécialiste, donc j'aurais du mal à vous en dire plus sur le sujet.
Même 100 000 chiens sur 7 millions, ça, déclarés, ça fait 1 sur 7. Hein.
Ouais, mais après, justement, les chiots, donc le taux de naissance par an, c'est pas c'est combien de chiots aujourd'hui passent par les clubs. Puisque je vous dis, il y a beaucoup, ils passent, ils vont rester un mois, deux mois, trois mois. 6 mois. Et après, il repart dans la nature juste pour avoir les, on va dire, les rudiments de l'éducation du chien. Et en par an, je crois qu'on est à 500 ou 500 000 chiots par an. Donc peut-être que sur les chiots, par contre, qui vont passer temporairement, on va en voir 10, 15, 20%. Il faudrait que ça augmente. Ça, c'est sûr que ça serait un acte important. Donc pousser, pousser, créer un partenariat avec les clubs locaux. C'est vraiment important.
Donc ensuite, à partir du moment où tu as décidé que c'était le rôle de la collectivité, oui, alors, selon les municipalités, vous avez parlé de plaintes, ça peut être intéressant de savoir, en ce qui vous concerne, la moyenne que l'on ressort, c'est qu'environ 30% des plaintes enregistrées sont sur la déjection canine. Alors, on sait que la première plainte, a priori, ce sont les encombrants. Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que vous avez beaucoup de plaintes en termes de déjection canine qui sont remontées? Non.
C'est comme ça se trouve, beaucoup nous avons des écoles au centre-ville.
Ah oui.
C'est plus les élus qui sont sensibles à ça.
Qui reçoivent
dans leur ville ça, quoi, qui veulent que des solutions soient trouvées. Ce qu'on remarque aussi, c'est que même les maîtres qui ramassent, ils ramassent plus facilement si c'est sur un trottoir.
Bien sûr que sur un espace vert.
Mais ils considèrent que sur un espace vert, ils ont forcément. C'est pas ramassé. Hein. Et en plus, quand il y a du monde autour, ils ont tendance à ramasser. Mais quand ils sortent après 22 heures, après le film, il n'y a plus personne. Il y a des petits. Quoi.
Des mauvaises habitudes.
Oui, mais ça, c'est la peur du regard de l'autre. Hein. Voilà. Et plus on communique, et plus. D'où l'importance de communiquer d'ailleurs. Plus on communique là-dessus, plus on dit voilà, on a mis des moyens en place, on a mis des ressources en place, plus le propriétaire du chien va se sentir un peu obligé, surtout s'il a le regard de son voisin à côté.
Allez, mais sur un plan pratique, vous avez déjà essayé dans une grotte, dans de l'herbe?
Non, je sais, c'est.
Hein,
c'est
compliqué. Autant sur le trottoir, c'est hyper c'est simple, autant dans de l'herbe, vous prenez. Aussi, hein. Ah. Oui, en plus.
Ce
qui m'avait impressionné un peu, vous avez sorti, c'était la commune des Salles-et-Nancy, qui était garée sur le petit espace vert qui est devant la mairie. Il faisait nuit, il était 22h, et là il y a des gens qui viennent sortir leur chien le soir et qui ramassent dans l'espace vert, alors qu'il n'y a personne, qu'il n'y a rien. Et j'avais vu le collègue des Salles-et-Nancy, je lui dis, mais t'as fait quelque chose ou quoi? Ils ont une caméra, mais quand même.
Il y a d'autres communes, on va en parler tout à l'heure.
Il y a des expériences assez uniques. Ouais. Ouais. Ça va même plus loin. Il y a un monsieur qui veut intervenir.
Prendre la parole, si vous le savez. Mais alors, vous parliez de plainte, effectivement, la plainte au sens propre du terme, on n'en a pas vraiment, mais il n'y a personne qui vient déposer une plainte. Par contre, dans les conseils de quartier, dans les réunions publiques, voilà. Dans les conseils d'école, c'est un problème récurrent. On nous parle toujours de crottes de chiens.
D'accord.
D'ailleurs, souvent, moi, quand on me demande de me présenter, je dis oui, je suis adjoint au cadre de vie, alors je suis aussi l'adjoint aux crottes de chiens, aux papiers gras. vous voyez un peu l'ambiance dans laquelle on est.
En fait, je pense que ces chiffres-là reflètent un peu ce que vous avez dit, monsieur. Parce que c'est ce qui ressort dans l'ensemble des communes avec qui on travaille, c'est qu'il n'y a pas de plainte, on va dire, officielle et formalisée, mais
il y a
on
des courriers.
En parle beaucoup et il y a quand même des récurrents. Des
je peux. Moi, personnellement, j'avais mis une affiche sur ma boîte à lettres parce que j'en avais marre, des crottes de chiens sur mon trottoir, en disant que je nettoyais le trottoir, donc que les gens respectent, et ça a marché quand même. De temps en temps, j'en ai encore, mais bon, ça fonctionne.
Oui,
mais
il faut communiquer.
J'étais tellement énervée parce que j'avais marché en sortant chez moi.
Nous, à Maxéville, le problème, il est bizarre parce que c'est certaines rues. Il y a des rues où je pense que les propriétaires de chiens se rassemblent et ils leur font tous faire caca au même endroit. Et il y a d'autres rues où il n'y a quasiment aucune déjection. Mais il y a des rues où c'est vraiment impossible de marcher sur le trottoir.
C'est justement là où il faut, enfin on verra dans les actions à mener, c'est ce genre d'emplacement, de situation qu'il faut repérer pour démarrer en fait la mise en place de moyens. Et même on peut voir aussi qu'il y a certains endroits où on a mis des distributeurs par exemple de sacs, où ça ne fonctionne pas, il y a des villes qui les ont retirées pour les mettre ailleurs, et là, du coup, ça a fonctionné. Donc, après, la logique du propriétaire de chiens et des chiens et des déjections, ça, je ne la connais pas, mais en tout cas, c'est un fait. Ce que vous dites est un fait, et partout, on le voit. Donc, Ensuite, bah, il faut se poser la question, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait faire? Est-ce qu'on fait, bah, c'est-à-dire est-ce qu'on met en place des motocrottes, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on intègre ou est-ce qu'on fait faire, c'est-à-dire on met en place des moyens, que ce soit en intérieur, en extérieur, dans la ville, pour permettre aux propriétaires de chiens de ramasser. Est-ce qu'on intègre cette réflexion dans une démarche environnementale aussi? C'est important de se poser cette question. Et puis, bah, est-ce qu'on est prêt à s'engager sur un budget, lequel? Un budget fonctionnement, un budget investissement. Donc, tout ça, c'est des préalables, mais je pense que c'est incontournable, vous le savez certainement, pour décider, en fait, de quelles actions mener derrière. Alors, une fois qu'on a décidé de faire à la place, de faire faire, il y a aussi ce qu'on vient de dire avec madame, tout dépend de l'impact visé. Il y a plusieurs possibilités. On peut travailler sur l'urgence. C'est-à-dire, vous avez des plaintes, vous avez des zones qui sont sinistrées, on va dire. Donc, vous allez mettre en place tout de suite, rapidement, pour répondre à un problème d'urgence. Donc, vous pouvez mettre aussi en place des zones test. Il y a des communes qui l'ont fait. Ça fonctionne quand même relativement bien. Des zones test, ils mesurent avant le nombre de crottes qu'ils ont sur cette zone. Ils mettent en place des distributeurs. Et ils mesurent après. Ils l'ont fait, il y a une commune qui l'a fait sur un mois. Et les résultats étaient quand même très, très intéressants parce qu'il y avait quand même une diminution certaine des déjections.
Et c'était quel type de sac qu'ils avaient mis?
Là, en l'occurrence, c'était des distributeurs avec des sacs plastiques classiques.
Ils disparaissent.
Ouais, on va voir les différents. On a des solutions sur les sacs. Il y a différents types de sacs justement pour qu'ils disparaissent moins. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaîtront complètement, hein, mais ils peuvent disparaître moins. On peut faire une économie de sacs selon le type de sac qu'on va utiliser.
Il faut trouver un sac que les gens ne peuvent pas utiliser à part pour ramasser.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
Ouais, juste pour répondre. C'est une de nos questions récurrentes, c'est le gaspillage, on me pique tous mes sacs, j'ai plus de sacs, donc ça c'est systématique. Alors nous, j'essaye de dire, il va falloir accepter quoi qu'il arrive qu'il y ait des utilisations périphériques, malheureusement. Donc nous on amène toujours en disant, la question c'est le budget. Nous on vous amène toujours en disant, par point de distribution, c'est tant de sacs. On a à peu près les visions aujourd'hui, parce qu'on travaille avec plus de 1000 communes, en fonction de la taille de la commune, le nombre de sacs par an, logique, à consommer. On vous dit, voilà, donc, ça sera tant par an de sacs. Après, sur les aspects techniques, là où on a fait évoluer le matériel, c'est on a réduit les tailles des sacs. Dans le passé, et la ville de Nancy pourra témoigner, on avait des sacs très très grands, très volumineux, donc ça pouvait servir aux cours, salles de bain. De plus en plus, on travaille justement sur une réduction des sacs, en les rendant plus efficaces. Donc les derniers sacs qu'on a fait, ils font 2 litres de contenance, ce qui limite, on vous les montrera, ce qui limite fortement justement les utilisations potentielles périphériques. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre un sandwich, c'est trop court. Enfin, on nous a cité un peu toutes les utilisations. Donc ça, c'est un des facteurs techniques. Ça paraît idiot, mais c'est un des facteurs techniques pour limiter. Deuxième aspect, c'est d'aller de plus en plus vers des distributeurs unitaires. Alors ça fera jamais, il y aura toujours du gaspillage, hein, mais ça limite aussi, c'est-à-dire que les gens sont obligés de prendre sac à sac. Alors, on a fait des tests sur des grandes villes en passant de système à prélèvement, on va dire, libre. Donc, j'ai en tête Perpignan, où ils avaient 100 distributeurs. On a basculé sur 100 modèles à prélèvement unitaire. On a réduit la consommation à peu près d'environ 30-35% annuel. Et après, en passant à des sacs donc, qui limitent tout ce qui est des dimensions moins intéressantes, on va dire, pour des non-ramasseurs de crottes, on a encore diminué la consommation de 15%, ce qui a réduit à peu près de 50%.
Mais ça reste toujours du plastique.
Après, on peut faire de l'amidon, de l'oxo bio, du plastique non, donc polyéthylène classique, ou on peut aller vers du sachet papier. Alors là, les études montrent sur, on a travaillé aussi différentes tailles de villes, on réduit la consommation par 3 à 4, donc ça montre bien le niveau de gaspillage, puisque des sacs papier, ils font plus qu'un litre, donc il y a beaucoup moins d'utilisation périphérique, et donc à ce moment-là, on limite fortement. Par contre, c'est vrai que c'est plus cher, c'est un produit breveté, c'est l'environnement, voilà. C'est un choix de la commune. Mais là, c'est vrai qu'on réduit grandement la consommation. Alors, pour vous donner des grandes idées, grandes communes, il faut compter 10 000, je ne sais pas si vous m'entendez, grandes communes, comptez en moyenne, mais Nancy pourra témoigner, 10 000 sacs à peu près par point de distribution, environ par an. Petite commune plus rurale, donc moins de 5 000 habitants, comptez 3 000, 4 000 sacs par an. Commune intermédiaire, 5 000, 6 000 sacs par an. Et après, moi, on vous donne un estimé de budget sac par an, par point de distribution. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça.
Une ville de 10 000 habitants, combien de moyens ?
Comptez 5 000, 6 000 sacs par point, par ce que j'appelle point de distribution, par distributeur par an. Voilà, c'est à peu près ça qu'il faut évaluer pour mesurer votre budget, accepter le gaspillage. On a fait des études sur une grande ville comme Lille, où ils ont mis 200 points de distribution. Il met à peu près 2 millions de sacs par an. Il a dit, dans mes corbeilles, j'en retrouve la moitié, 50%.
Voilà. C'est pas par terre.
Voilà, après, ça, c'est un autre phénomène. Je vais laisser Martine en parler.
Justement, c'était l'adaptation aux différents espaces. Ça signifie qu'effectivement, aussi, quand ils ramassent la déjection canine, ce qu'il faut également, c'est qu'ils ne peuvent pas faire plus de 100, 150 mètres s'ils ne trouvent pas une poubelle et mettre ça par terre. Donc, c'est des statistiques le montrent. Donc, il faut. Alors, la poubelle n'est pas forcément obligatoirement au niveau du distributeur. Parce que si vous rentrez dans un parc ou dans un square, par exemple, le distributeur doit être à l'entrée et les poubelles doivent être à l'intérieur. Parce qu'il est évident que le chien ne va pas faire devant le distributeur. Donc, il faut.
Trop bien. Dans la poubelle.
Il faut vraiment réfléchir à ça. Ça a l'air plus bête comme ça. Mais adapter votre action, vos moyens à l'emplacement. Là, il y a deux types d'emplacements. Il y a un square où là, effectivement, le distributeur est devant et les poubelles à l'intérieur. Ou sinon, vous avez une petite placette où là, effectivement, vous pouvez avoir la poubelle à côté du distributeur. Puisque, voilà, gardez ça en tête, 100-150 mètres sans trouver de poubelle, le propriétaire met le sac par terre. Et la fois d'après, il ramasse plus.
Moi, je pensais aux sacs même vides.
Oui, les sacs vides. Oui, sauf qu'ils enlèvent. Alors là, c'est pareil, le distributeur, il faut essayer de bien réfléchir à l'endroit où on va le positionner. Bien évidemment, pas à côté d'un lycée, d'un collège ou d'un endroit comme ça, parce que ben là, il va y avoir du gaspillage. Et puis, comme disait M. Rigomier, le prélèvement unitaire, les distributeurs à prélèvement unitaire ont vraiment montré leur efficacité, parce que à la mise en place. Bon, il va y avoir du gaspillage, mais au bout d'un moment, ça sera terminé parce que prendre un sac par un sac, en plus, si vous mettez des sacs qui ont une contenance minime, où on ne peut pas faire grand-chose avec, au bout d'un moment, ça va les lasser. Donc, on a vraiment vu l'efficacité des sacs dans les communes, on a mis ce type de produit.
Alors, juste un petit commentaire. On a eu plusieurs fois des retours où, lors de la mise en place, quand vous n'avez rien sur la commune, il y a un phénomène de nouveauté découverte, donc pendant 2 mois, 3 mois, il y a une surconsommation automatique, parce que par curiosité, les gens prennent des sacs. Voilà. Mais après, ça, faut, là aussi, c'est un phénomène qu'on nous décrit régulièrement quand il n'y avait rien. Un autre bémol, je vous parlais des consommations moyennes. C'est vrai que c'est des consommations moyennes quand on a une ville qui est à peu près couverte. C'est qu'on estime en moyenne, une ville est couverte en point de distribution, c'est à peu près, c'est très théorique, hein, mais c'est à peu près un point de distribution par 1000 habitants. C'est grosso modo théorique, c'est des visions un peu synthétiques. Hein, ça vaut une ville très touristique ou une commune très touristique, ça sera sans doute plus. Ça dépend aussi comment sont bâtis vos espaces entre voilà, les cheminements, les parcs. Mais voilà, théoriquement, à peu près ce qu'on voit, un point de distribution par 1000 habitants. Tant que vous n'avez pas atteint, entre guillemets, la couverture de votre commune, vos points de distribution, il y aura de la surconsommation. Parce que les gens, ils vont aller d'un peu plus loin pour venir chercher des sacs. Donc par rapport aux données théoriques que je vous donnais, nombre de sacs consommés par an, vous aurez une consommation supérieure. Voilà.
Donc on va voir les actions, quelles actions mettre en place. Donc, les trois, disons, clés de la stratégie, et par ordre, c'est déjà bien sûr d'informer, de communiquer, d'éduquer et de sensibiliser, ça fait partie des axes. Une fois que vous avez bien communiqué, si on communique bien, bah, il faut derrière mettre quelque chose en place, parce que sinon ça ne suffit pas. Donc implanter, et puis en dernier recours, et c'est ce qu'on a vu dans l'ensemble des communes quand même, la verbalisation, parce que la verbalisation n'est pas forcément un moyen le plus efficace, et puis certaines communes, enfin vous en êtes les témoins, certaines communes sont un petit peu, disons, n'osent pas trop verbaliser parce que bon, c'est jamais pour la pour la déjection.
Monsieur qui voulait intervenir.
Oui, je vous en prie. En fait, il y a deux. Enfin, nous, on a eu l'expérience. Il y a deux arrêts. Alors, bon, il y a la verbalisation des fameux 35 euros que vous pouvez verbaliser quand vous prenez les gens pour le faire. Hein. Et on a une commune.
C'est quel article ?
Ça a été intéressant. Pardon ?
Quel article ?
Je l'ai là, je vais la donner. Là, je ne l'ai pas par cœur.
On va en parler après.
L'article R.
Il y a le lien, monsieur.
Voilà,
il y a des spécialistes. Alors, il y a les deux. Et l'arrêté municipal.
Il y a l'arrêté municipal. Et il y a une ville du Nord qui a fait un arrêté spécifique. Alors, sur le plan légal, je ne sais pas si c'est... Mais en fait, il verbalise à partir du moment où le propriétaire du chien, qui se promène avec son chien, bien sûr, n'a pas de sachet sur lui.
Si j'ai un éduqué qui va dans le caniveau,
le caniveau, c'est pareil, mais il n'a pas à faire dans le caniveau. Je suis désolé, je mets les voitures à roule dedans.
Ah,
c'est pas mieux, c'est plus bruit que ça.
C'est très bien, le chien ne peut que faire.
Le caniveau, oui, il a raison.
Il a
raison. Oui, normalement, oui.
Le caniveau est autorisé.
Mais c'est que là, il ne peut pas être sur les voitures. C'est une infraction, il n'est pas en bâtiment des
dizaines. Ah, oui, bien sûr.
Alors,
c'est pas le tableau. J'ai
Allez-y, Martin. On va continuer parce qu'on fait signe qu'il y a des impératifs d'horaire.
Il y a les solutions qui arrivent.
En termes de communication, ben, les premières communications, c'est ce que vous connaissez, je pense, c'est les supports de communication traditionnels. Hein. Tout ce qui est bulletin mensuel ou trimestriel des mairies. Les sites internet, de plus en plus c'est sur les sites internet que l'on peut communiquer. Les flyers aussi, bon, quelqu'un m'en a parlé. Il y a des communications qui sont un peu plus ciblées, il y a certaines communes qui font des communications personnalisées, c'est-à-dire que quand il y a des nouveaux arrivants dans la ville, à partir du moment bien sûr ils ont déclaré leur animal, mais ils mettent en place un courrier de bienvenue et en leur disant que s'ils sont propriétaires d'un chien, qu'ils peuvent venir à la mairie chercher une mallette de nouvel arrivant, mais avec également à l'intérieur des sachets plastiques, un petit paquet de croquettes, enfin des
choses. Qui déclare avoir un chien ? Bah, par les chiens catégorisés.
Non, mais justement, en fait,
c'est le nouvel arrivant.
Le nouvel arrivant, la commune envoie des messages aux nouveaux arrivants en général qu'ils veulent laisser. Et donc, dans le courrier de bienvenue.
Ah, c'est la mairie qui demande. Oui.
Voilà, ouais. D'accord. Et ils les font venir, en fait.
Spontanément le faisaient.
Non, ils les font venir par ce biais-là. Je trouvais que c'était intéressant. Parce que du coup, ça permet d'identifier, en fait, les nouveaux arrivants, les propriétaires de chiens. Ils vont y aller parce qu'il y a un cadeau, en fait.
Alors justement, on organise ce mois-ci notre journée d'accueil des nouveaux arrivants, donc ça tombe très bien parce que sans pouvoir le donner à tout le monde, mais on peut très bien envisager que sur place, les propriétaires de chiens, il peut y avoir un petit stand, une petite affiche qui explique et qui propose de donner des canisacs, etc. Voilà. La question que je me pose, c'est ça fait le lien avec une réunion d'information qu'il y avait eu il y a quelques semaines. À moins de 6 mois des élections municipales, est-ce que on peut ce genre de communication la créer en période, enfin voilà, est-ce que c'est quelque chose de pratique qui pose pas problème ou au contraire est-ce qu'on peut dire c'est nouveau voilà.
Profiter d'une occasion.
Nous on est intelligents, mais il y en a qui sont bêtes, hein, donc oui. En fonction de ça. Vrai. Je vous dirais que je préférerais que vous attendiez l'année prochaine, même si c'est idiot de vous dire ça, parce qu'il faudrait agir tout de suite, mais par sécurité, étant donné que vous allez donner, même si c'est des choses qui sont distribuées par ailleurs gratuitement, mais vous allez quand même faire un geste particulier,
qui peut laisser supposer qu'il y a une façon particulière de prendre en considération la personne parce qu'elle a un chien, je préfère vous dire méfiance. Même si je sais bien que ce discours est complètement idiot par rapport à la nécessité de le faire le plus vite possible, parce que plus il y en aura qui seront sensibilisés, mieux ce sera. Mais franchement, mieux vaut éviter.
Donc les affiches, bien sûr. Voilà un exemple de communication qui a été fait dans la ville de Brest. Donc là, ils ont tapé fort. Hein. Vous avez vu, c'est un énorme cube. Donc ils ont sensibilisé, ça aussi ça fait partie des choses qu'il faut, on a donné des chiffres en mètres cubes, en tonnes, je pense que ça il faut vraiment communiquer sur les kilos et les kilos de déjections canines qu'il y a dans les rues. Ça peut être sous forme d'une énorme poche au milieu de la place, et je pense que ça fait partie des communications qui vont faire réagir les citoyens. Et puis comme on disait tout à l'heure, à partir du moment où toute la commune va être au courant des actions menées, c'est un peu comme la cigarette, hein. Il y a une certaine époque on fumait partout, puis il y a eu la loi Evin, ça a été assez long à mettre en place, et puis après il y a le regard du voisin qui a fait la différence, ouais. Et puis petit à petit, bon maintenant, je veux dire que les mégots ils sont dans vos rues. Mais...
C'est un autre sujet. Les papiers, avec les déjections canines.
Oui, tout à fait. C'est un autre sujet, mais ça peut permettre de sensibiliser.
Oupla. Je parlais sans serre. Mais... Le cube, il n'y en avait qu'un seul pour toute la ville. Ou ils le déplaçaient, ils comment?
Ils le déplaçaient, je crois qu'ils l'ont mis en place. Ils ont mis en place le cube. Je ne sais pas.
Mais par contre, ça peut être intéressant dans vos fameuses rues là. De mettre en place une grosse chasse.
Dans les zones critiques, c'est vraiment fait pour sensibiliser sur les zones critiques.
Quand même, c'est la place de marcher sur le trottoir des gens. Là, ils n'auront pas, hein.
C'est
le petit colmat dans des crottes.
Oui, c'est
l'accès
handicap.
C'est pour une place importante. Oui.
Par rapport à ce type d'action de communication un peu choc, on va dire, quel est l'impact sur la population? Parce que, est-ce qu'ils ont mis en parallèle un certain nombre d'autres actions de communication qui ne permettent pas de mesurer l'impact? Ou... Parce que c'est assez difficile, je comprends bien que ça interpelle les personnes qui voient ce cube. Pour autant, est-ce que, à 23h, quand les personnes promènent leur chien, est-ce que ça change quelque chose sur les comportements?
En fait, c'est un axe de communication, mais ce n'est pas suffisant. Enfin, je veux dire que ça permet de sensibiliser l'ensemble des citoyens. Mais à côté, il y a des moyens. La ville de Brest fonctionne très bien en termes de propreté canine, mais ils ont mis en place des distributeurs, ils ont en place d'autres pommes. Ce n'est pas uniquement ça, mais ça peut être intéressant de le faire sur un point précis.
Le ressenti avant de passer aux actions concrètes, malheureusement, ce n'est pas un levier qui vous permettra d'apporter... On va dire que c'est chaque levier qui apporte un petit pourcentage de résultats supplémentaires. Donc il faut traiter les zones d'urgence, communiquer, sensibiliser, faire craindre la verbalisation, voire la mettre en place. Enfin, c'est ce cumul-là, ce qu'on appelle une action 360. On va avancer dessus, vous verrez au fur et à mesure, mais c'est l'ensemble des leviers qui vous permet jamais d'atteindre 100%, mais de monter votre efficacité, votre impact.
Alors il y a le conseil municipal des enfants, on en parlait tout à l'heure, hein. Ça c'est vraiment des prescripteurs qui sont très efficaces, et il y a beaucoup de communes qui ont travaillé avec eux, qui ont mis ça en place, c'est des enfants qu'on s'est appelé en cours, où j'étais il n'y a pas longtemps, dans le Nord, où c'est le conseil municipal des enfants qui a monté le projet et qui a permis de mettre en place des solutions. Des petits essuie-laisses comme ça, alors les justement...
Qui étaient lesquelles?
Pardon?
Vous avez dit qu'il y
a... Les distributeurs, il n'y avait rien dans la commune.
Ah, il n'y avait rien du tout.
Il n'y avait rien du tout dans la commune, et donc les gamins, ils ont...
Rien de neuf pour nous.
Voilà.
Donnez-nous des trucs neufs, ils marchent. Ça arrive.
Donc les étuilesses aussi, c'est un outil de communication qui peut être intéressant, parce que vous pouvez les distribuer, justement, ça fait partie des choses que vous pouvez mettre... vous en avez un dans chaque dossier, ou que vous pouvez mettre... que vous pouvez donner aux nouveaux arrivants, justement dans la fameuse mallette nouveaux arrivants propriétaires de chiens, avec des sachets plastiques.
L'année prochaine.
Dès le mois d'avril, vous pouvez lancer les communications.
Donc, comme disait M. Rigobier, il y a, la communication, c'est vraiment un ensemble de choses. Alors, il y a de la communication aussi par rapport à bon, le message, il faut qu'il soit un message fort, positif. On peut mélanger l'humour et le sens civique, hein, parce que ça ne fait pas de mal non plus de faire sourire les gens. Bon, là, je vous ai mis un petit florilège d'affiches qui avaient été faites dans les différentes villes. Voilà, donc il y en a certaines que vous connaissez, puisque j'ai vu que vous l'aviez dans votre revue. Donc à Arles, voilà, ce genre de choses. Bon là, c'est un petit peu plus... À Vienne, c'est un peu différent. Bon, est-ce que c'est... C'est un peu... Bon, voilà.
Plus ou moins bon goût, plus ou moins répressif, plus ou moins efficace.
Ça n'a pas de bon goût, hein.
Voilà. C'est pour ça.
Mais bon, ça fait parler, en tout cas. Parce qu'à chaque fois qu'on le montre, ça fait parler, ça fait causer, donc ça interpelle. Donc peut-être que finalement, c'est pas si... Ça peut être efficace. Et bien évidemment, il faut aussi... expliquer et dire où sont l'implantation hein, dans les villes. Donc ça, l'implantation, il y a plusieurs démarches. Il y a dans le, sur le site internet, bien sûr, sur le bulletin trimestriel, distribution de flyers. Et puis il y a des applications, s'il y a des villes qui ont mis en place des applications smartphone pour la mairie. Je crois qu'un niveau concept aussi, le Salon des maires va présenter quelque chose.
Alors on est en train de travailler pour mettre une application avec les moyens modernes, donc iPhone, où les gens peuvent repérer, communiquer sur... j'ai vu une déjection, j'ai vu un distributeur, il y avait des sacs, donc je pense que ça peut vous permettre de plus en plus de faire réagir les gens et de les faire intervenir.
S'il vous plaît, alors moi je voudrais voir deux points. Alors, c'est un retour d'expérience, et puis éventuellement j'aimerais bien avoir l'avis de certaines personnes qui ont mis en place des canicites. Alors moi je vais vous parler déjà de l'expérience qu'on a eue récemment sur Jarville. On était sollicités par des parents d'élèves, ils nous ont même fait une petite pétition parce qu'il y avait des crottes de chiens. Alors on a pris au bon cette demande, on les a reçus en mairie, les gens étaient d'ailleurs très surpris qu'on les reçoive, et on a mis en place une action, c'est eux les commanditaires, et nous on les a aidés techniquement pour mettre des panneaux sur les grillages de l'école, et c'est les enfants qui font des dessins. Donc là, on sent qu'il y a des partenaires, on a la directrice de l'école, les parents d'élèves et les enfants, avec le soutien de la ville. Et je voudrais dire, pour l'instant, on n'a pas fait encore de comptage de crottes, mais il semble, à première vue, que c'est assez efficace. Alors, je ne sais pas si on peut faire cette opération partout, mais pour nous, c'est un exemple. Peut-être qu'on essayera. Bien sûr, tout seul, on ne peut pas y arriver. Mais on a profité de cette demande pressante des parents d'élèves pour prendre la balle au bon. Et franchement, moi, je pense que c'est une bonne
idée. Les
alors maintenant, moi, j'aimerais bien avoir le retour. On avait envisagé de mettre des canicites, on s'est renseigné, et on nous a dit, vous savez, ça marche pas. Je suis allé visiter des sites d'ailleurs, et où, effectivement, sur le canicite, il n'y avait rien du tout. Par contre, sur les allées qui allaient vers le canicite, il y avait tout ce qu'on pouvait ramasser. Alors j'aimerais bien avoir votre avis et vos retours d'expérience.
Chez nous, on en a et ça ne fonctionne pas du tout.
On va en parler du canicite parce que c'est vrai que le canicite est assez limité.
On pense qu'ils ne sont pas forcément implantés au bon endroit. Donc je pense que.
On les a positionnés, Marie-Jo, tu confirmeras, dans le parc du château de Champignol. Et je pense qu'ils ne sont pas clairement identifiés aux yeux des propriétaires. Et puis, comme les gens sont de toute façon dans le parc, où il y a déjà des espaces verts, le temps que le chien arrive au canicite, il a déjà fait ses besoins.
Donc, moi, je trouve pas ça très hygiénique. Ah, c'est ce qu'ils disent, le chien n'y va pas d'ailleurs. Il y a des chiens qui n'ont jamais...
J'ai personnellement un chien, je l'emmenais au canicite, il faisait à côté, mais pas tant. Il veut même pas rentrer dedans. C'est pas très. Puis même moi, en tant que propriétaire, je trouve pas ça très bah,
c'est
mettre le chien dedans.
C'est un des inconvénients du canicite, c'est que s'il n'est pas nettoyé régulièrement et très très régulièrement, le chien ne va pas y aller. S'il y a des crocs, il ne va pas y aller. Alors il y a des communes aussi qui ont fait des expériences en mettant le canicite et un distributeur devant. pour que le chien médecin ne fasse pas.
C'est antinomique.
Parce que c'est complètement en contradiction. Donc c'est vrai que le canicite, il faut qu'il soit nettoyé, donc ça demande de la ressource. C'est peut-être en termes d'investissement au départ, c'est pas excessif. Mais après, ça demande quand même de la ressource, des moyens. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, nettoyer les canicites, ce n'est pas toujours très agréable. Après, il y a la façon, alors moi, je ne suis pas technique, hein, mais il faut du gravier, du sable, enfin, il faut que la mise en place soit vraiment très pour essayer d'éviter les nuisances. En plus, il faut qu'ils se voient, mais pas trop, parce que sinon, ça ne va pas plaire aux riverains, si on a le canicite en face des fenêtres. Voilà, donc il y a...
Juste une remarque par rapport aux canicites, c'est que souvent ils sont juste à côté des aires de jeu des enfants, enfin, ou pas très très loin, donc voilà. Et souvent dans le bac à sable des enfants, il y a des crasse-chiens, pas dans le bac aussi, mais bon. C'était juste une petite remarque. Je voulais savoir si vous aviez des retours d'expérience sur, pas des canicites, mais j'ai déjà vu dans certaines communes, dans des parcs, en fait, une partie du parc qui oui, est grillagé, où c'est un espace de liberté.
Justement, c'est pour ça que je vous ai annoncé, parce qu'on va en parler.
On va en parler.
Si je peux me permettre de...
On va aller au bout du...
On va en parler, parce que c'est aussi une...
important. Donc, bon, on a parlé de la verbalisation. Juste pour dire un mot là-dessus, c'est à Montgeron, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu moi aux actualités. Alors, à Montgeron, ils ont mis des caméras de surveillance partout. Ils ont, pour les chiens qui passaient chez le vétérinaire, alors peut-être que vous connaissez un peu mieux, faire des prises de sang sur les chiens pour avoir leurs ADN. Et c'est hallucinant. Donc, mais je pense
c'est
que
c'est pas
à Montgeron, pardon, c'est à Montereau.
Montereau.
Et on va les appeler.
Il y a des agences que fait que pour ça.
Donc c'est un coup quand même assez important. Mais bon, le monsieur le maire a parlé. C'était sur FR3 à Trémoulé, et donc il expliquait qu'il était très satisfait de la mise en place de ses caméras, donc il verbalise bien évidemment, et il retrouve le propriétaire du chien grâce à l'ADN.
Il verbalise sur caméra, c'est-à-dire oui, comme c'est... dans certaines villes, le stationnement est verbalisé à l'écran, là ils font pareil.
Oui, en fait, et puis par l'ADN surtout. Oui. Il retrouve le propriétaire du chien grâce à l'ADN, donc du coup il y a...
Ça coûte un maximum.
On avance.
Et puis alors pour les taxes aussi, c'est vrai qu'en Belgique, chaque propriétaire de chien paye 20 euros par an pour avoir à disposition des sacs. Donc en termes de moyens, bon, alors, on vient d'en parler, les canicites. Donc effectivement, quel choix faire? Est-ce qu'on prend des canicites ou est-ce qu'on prend des distributeurs? Donc on a vu les odeurs, le nettoyage très très régulier des canicites, beaucoup de contraintes dans la conception également. En termes de distributeurs, bon, il y a moins de contraintes, mais s'il manque des sacs, si vous mettez des distributeurs et qu'il manque des sacs, il y aura des plaintes. Donc c'est pareil, il faut quand même régulièrement remplir les distributeurs. Une fois par semaine pour certaines communes, ça peut être une fois tous les 15 jours. Tout dépend du type de distributeur que vous prenez, parce que pareil, il y a des distributeurs de 200 sacs, de 300 sacs et de 600 sacs. Donc, en fonction des lieux d'implantation et par rapport aux zones de test que vous aurez fait au préalable, vous mettrez des distributeurs différents.
Un distributeur de 600 sacs, il y a 600 sacs qui partent vachement plus vite qu'un distributeur de 100 sacs.
Pas nécessairement.
Oui, nous les volent. Donc, on en met le matin, deux paquets, donc ça fait 20, à 10h, à 11h, il n'y en a plus.
Qu'est-ce que vous avez comme système?
C'est un truc qui déroule.
Ce sont des rouleaux?
Non, c'est des paquets.
Mais on tire.
Donc, ils peuvent tirer
par le bas.
Par en dessous.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ah oui. Ouais. Et justement, ça
change les distances.
C'est un
système. C'est pas un prélèvement unitaire, c'est comme ça. Donc en fait, au lieu d'en prendre un par un, ils peuvent prendre l'ensemble de la liasse. Et du coup, effectivement, là, il y a un gaspillage.
Nous, sur Jardine, en fait, le problème, enfin, la question, c'est de responsabiliser les propriétaires. Une fois qu'ils sont responsabilisés, les distributeurs de sachets, on n'en a plus qu'un sur la ligne. Seulement, on a trois points différents sur la commune où les gens peuvent de même venir chercher des sacs. Donc ils en prennent plusieurs, hein. Les agents leur rendent la semaine, pour le mois, ils reviennent. La question, c'est comment les responsabiliser. Une fois qu'ils sont responsabilisés, notamment sur les petites communes, si vous faites des points de distribution dans les bâtiments municipaux variés, la question effectivement du vol de sacs, elle ne se pose plus.
Alors, il y a les deux solutions, puisque justement, c'est ça, c'est extérieur et intérieur, en fait. Il y a la distribution, on voit les étapes au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on a commencé par la pomme, après c'est l'implantation, et l'implantation, distributeur intérieur et extérieur, c'est très complémentaire. Comme vous disiez, madame, à l'intérieur, dans les bâtiments publics, chez les vétérinaires, chez les toiletteurs, parce qu'il faut profiter d'eux pour pouvoir mettre en place des serviteurs, pardon.
À 22h, il n'y a plus personne, donc il faut que ce soit extérieur.
Il faut les deux. Dans la mesure du possible, il faut les deux. Hein. Le distributeur intérieur, extérieur, l'intérêt, c'est qu'il est indépendant, donc on peut l'utiliser n'importe quand. Et de plus, c'est une action directe aussi dans une zone à risque.
Que vous avez repérée.
Voilà. Par contre, le distributeur intérieur, c'est une autre démarche. On peut même mettre deux types de sacs en intérieur et en extérieur. Vous voulez dire quelque chose ?
Non.
D'accord. Bon. Donc, on arrive aux sachets, justement, les fameux sachets de 1 à 5, à 6 litres. Donc, on a apporté quelques exemplaires. Donc, en fait,
je vais vous aider.
Vous voyez, en fait, c'est des sacs. Voilà. Ça, c'est les nouvelles conceptions de sacs. Ils sont beaucoup plus petits. Du coup, on ne peut pas mettre grand-chose d'autre que la déjection canine. Alors, ceux-là sont un peu plus grands. Et si vous le prenez pour prendre une crotte de chien, hop, vous faites ça, vous faites ça. Si vous voulez le fermer, vous êtes obligé de toucher la crotte. Hein. Et puis, au final, votre sac, il est tout petit quand même. D'accord ? Et vous ne le refermez pas. Hein.
Par contre, nous avons en place pour correspondre à des petits sacs.
Des nouveaux sacs. Justement, c'est l'intérêt que là, c'est exactement la même surface en fait, en termes de sac. Par contre, l'intérêt, c'est les bretelles. Et donc, c'est un facilitateur de promenade, on va dire. Parce que déjà, s'il est fermé,
on peut le garder plus longtemps
dans
la main.
Un peu plus longtemps dans la main.
Ça pue.
Quand même, il y a quelques poubelles à côté d'un certain temps. Et vous allez ramasser de la même façon. Par contre, l'utilisation sera moindre sur
autre chose.
Pour congélation.
Le premier sac faisait 3,5 litres. Celui-là, il fait 2 litres. Donc c'est vrai que ça réduit la hauteur, beaucoup moins d'utilisation périphérique.
Donc c'est une des solutions.
Et pour finir, donc sachet papier, 1 litre. Donc ça s'ouvre comme ça. Hop. Et après, ça, je peux l'utiliser comme crotte, c'est mon modèle de crotte. L'intérêt, c'est qu'on ne touche pas. Voilà, l'intérêt, on peut le bloquer comme ça. Voilà, ça, c'est une autre technologie. C'est un chien, un chat. J'adore. C'est ma situation préférée, c'est que je sors ma paille. Non, je plaisante. J'adore parce que j'ai ma petite raclette. Alors justement, c'est génial. J'adore. Et surtout, alors, je dois l'avouer, en milieu herbeux, c'est moins bien. Alors, c'est vraiment idéal. En bitume. Par contre, en bitume avec la chiasse, je rate. Je l'utilise même. Je vais au-delà de ça parce que j'en ai une pratique quand même très courante. J'ai un chat qui rugit de temps en temps. Donc sur du carrelage, c'est génial. Je passe ça. C'est le summum.
Piquer à la ville pour ramasser votre.
Bah la ville, je l'ai produit. Donc je me le tais. Non mais c'est voilà. C'est une autre approche, mais quand vous avez entre guillemets comme vous le dites de la coulante, c'est avec les petites raquettes, ça va très très bien. Et avec du plastique, la coulante, c'est pas bien pratique et pas très agréable. Donc je préfère ça. Mais voilà, mais après c'est vraiment un choix.
Ils sont oxo-biodégradables. C'est-à-dire qu'il y a un adjudant.
Alors, on peut associer avec les sacs plastiques, en effet, des pinces séparées qui permettent de passer à travers et de saisir à travers et en refermant. Donc c'est un outil complémentaire qui peut être que vous pouvez distribuer justement aux nouveaux arrivants si vous avez essayé de partir sur une technologie sac plastique. Ça peut être un plus. On a des pinces aussi oui, qui peuvent servir en complément.
Il y a des distributeurs pour ça ?
Oui, tout à fait.
Mais extérieur, intérieur, les deux. On peut faire les deux.
Oui, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du coût à l'unité?
On va vous expliquer après les notions de coût. Il faut qu'on avance, On est parti, on y va. On ne pourra pas tout vous dire sinon.
Donc quand même, c'est important de savoir qu'ils sont bio. Bon, le papier, bien évidemment, il est 100% écologique. Hein. Donc, certaines fois, et ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en présentation intérieure, en présentoir intérieur, les sachets papier. En termes d'image, en plus, c'est quand même un produit qui est plus souvent intéressant pour les mairies.
On est juste à notion de budget. Donc, juste notion de budget. Petite commune, moins de 5000 sacs, comptez 100 euros de sac par point de distribution par an. Grosse commune, 10 000 sacs, je vous donne des grandes lignes. C'est à peu près 200 euros par point de distribution en sac par an. Voilà, c'est à peu près ça l'idée à avoir. Le sac papier, vu qu'on en consomme 3 à 4 fois moins, on se retrouve avec des un peu plus cher, voilà, 50% plus cher, 150 et 300 euros. Voilà, c'est un peu plus cher au final, mais moi, c'est ces notions qu'il faut que vous reteniez. Oubliez la notion, on va me piquer des sacs, mesurez en termes de budget. Dites-vous, voilà, un point de distribution, j'ai maillé ma ville. Petite commune, à peu près 100 euros de sac par an, grande commune, 200 euros. Si c'est du sachet papier, 150 et 300 euros. La question, c'est voilà, est-ce que ma commune, je suis prêt à mettre ce budget-là? Voilà, je voulais juste répondre à ce point-là, qui pour moi est le plus important pour vous en termes de raisonnement.
Et peut-être vous lancez après, on emmène à la déchetterie dans la veine de déchets verts?
Alors, ça dépend de votre réseau.
Après, ça dépend où sont mis les sachets, dans quelle poubelle et dans quelle.
Pour moi, il y a deux grandes options. Enfin, c'est plus à vous d'y répondre. Est-ce que ça passe en incinération? Ça dépend. Je pense qu'il y a des communes, c'est à travers un centre d'incinération. Donc là, quel que soit le type de sac, le polyéthylène en bilan carbone est presque le meilleur, étonnamment. Si après, vous amenez en compost, dans ce cas-là, vaut mieux partir sur du sac papier biodégradable, idéalement, qui est idéal en dégradation compost. Voilà. Ça dépend de comment vous traitez vos déchets. Chaque commune a un réseau différent. Non, oui, vous ne ferez pas de tri, c'est impossible. Non, c'est impossible.
Quand il y a une corbeille.
Alors, on a des corbeilles qui sont. Donc, pour les moyens extérieurs, le critère de choix également, il est fonction, bien sûr, de la taille de la commune, de l'endroit où vous allez mettre. Donc, des distributeurs de 200 à 600 sacs. Par contre, il est clair que depuis qu'il existe des distributeurs à prélèvement unitaire, donc par le centre, et on pince et on prend unitairement le sachet, on a vraiment constaté qu'il y avait 50% de consommation en moins. Donc, ça, c'est quand même un détail très très important. Voilà.
50% de conso en moins inutile. Enfin, de conso, oui, pas pour les crottes.
Voilà, voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça. Moins de gaspillage.
Moins de gaspillage. Et donc, le remplissage, il faut compter une fois par semaine. Pour les zones à forte fréquentation et une fois tous les 15 jours, on va dire, pour les zones à moins.
C'est une fois par jour.
Une fois par jour.
Pour remplir quand c'est vide.
Voilà, c'est sans sac. Alors, il y a des communes, je crois que Tancy a choisi le sac blanc. C'est des communes qui choisissent le sac noir. Quelquefois, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une liasse de sac blanc au fond du distributeur et mettent les sacs noirs devant. C'est-à-dire que quand les services techniques passent en voiture et qu'ils voient dans leur rond que c'est blanc, ils savent qu'ils doivent s'arrêter pour remplir. C'est un petit truc qui permet d'être un peu plus efficace. Voilà. Alors ensuite, on a le système Totem. Là, on a vu les distributeurs. Un distributeur, il faut compter un investissement, on va dire entre 100 et 300 euros si vous rajoutez un mât, si vous rajoutez un panneau. Sur les totems, le totem, il ne faut pas se tromper. Le totem, c'est un moyen de communication. C'est-à-dire que vous n'allez pas en mettre peut-être partout dans la commune, vous allez le mettre dans des endroits très stratégiques et ce sera un outil de communication et il faut le prendre comme tel. Donc un totem complet avec une poubelle adaptée, avec le panneau, avec un message personnalisé sur le panneau et le petit chien en haut, il faut compter, c'est entre, on va dire, entre 800, 850 et 1500 euros maximum pour le totem complet. D'accord ? Mais c'est vraiment le prendre en tant que un impact très fort au niveau communication. Et on a pu s'apercevoir aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure, que la mise en place de distributeurs pouvait être mise en question. Parce que faites des tests avant et après, vous voyez l'efficacité de... Voilà, et là, c'est des petits hauts de mât. Et les petits hauts de mât sont situés à 2,50 m. Ça veut dire qu'ils peuvent être vus entre 100 et 150 mètres au loin. Donc c'est pareil, c'est une accroche qui peut permettre aux gens de voir où se trouvent les distributeurs.
Visible à combien ?
100, 150 mètres.
C'est le champ maximum de visibilité d'un produit en milieu urbain.
Donc l'efficacité, on l'a vu, on en a déjà pas mal parlé, c'est-à-dire... Donc la présentation du dossier, on a dit qu'elle était vitale. Hein. D'abord les objectifs, ensuite la com, et ensuite les moyens, et ensuite l'évaluation. En termes d'évaluation, il y a plusieurs possibilités. Alors, il y a pas mal de communes qui ont fait, en termes de mesures des résultats, des mesures donc, avant et après, en quantité de crottes, hein, tout simplement, en calculant le nombre de crottes qu'il y avait avant la mise en place et après la mise en place. Le taux de plainte aussi, comme disait monsieur lors des réunions, etc., bah, vous allez voir l'efficacité parce que ça va disparaître, le sujet en fait d'éjection canine va disparaître. Donc la mesure est quand même primordiale pour savoir si ça a été efficace ou pas, ce que vous avez mis en place. Et là on va passer à la dernière partie, et justement cette partie 3, dont parlait madame tout à l'heure, d'intégrer en fait le chien dans la ville. Cette intégration dans la ville va permettre, que vous voulez tous, de sensibiliser le propriétaire de chien, de sensibiliser aussi les non-propriétaires de chien à l'intégration du chien dans la ville. Donc comme vous le disiez, les espaces réservés aux chiens, il n'y en a plus beaucoup, parce que souvent dans les mairies, dans les communes, tout ce qui est parc et square sont interdits aux chiens. On ne peut plus... Donc les accès sont interdits aux chiens. Vous avez donc deux possibilités. La première possibilité, c'est de mettre effectivement des canicites qui deviennent des champs de mine, quelque part, puisque le chien ne va pas y aller, puisqu'il va être vraiment très très sale, et avec un nettoyage énorme. Alors il y a des espaces chiens clôturés, beaucoup plus importants d'herbe, qui sont réservés aux chiens. Hein, on le voit dans certaines communes, vous en avez parlé tout à l'heure, je crois. Le problème de ces espaces, c'est que le propriétaire du chien va rentrer, c'est un petit square en fait, hein, il va lancer son chien, il va fermer la porte, il ne va plus s'en occuper. Et donc le chien va faire sa déjection canine dans l'espace qui lui est réservé. Mais le propriétaire ne rentre pas dans cet espace. Donc l'idée...
Là, je suis pas trop d'accord avec vous, parce que si un espace où on peut mettre le chien libre, c'est pour jouer à la balle, au bâton.
Ah ben justement,
moi je parlais dedans.
Oui, justement, c'est ce que j'aurais d'arriver. Donc de mettre en place. Là, ce dont je parlais, je l'ai vu à Arras par exemple. Ils ont un espace chien, comme vous disiez, petit square. Et il se plaignait justement du fait qu'il y avait de la déjection canine partout, parce que le propriétaire du chien laissait le chien gambader, laissait le chien faire ses déjections à droite, à gauche, sans s'en occuper. Donc il y a effectivement, et là où vous avez raison,
oui, il faut les identifier comme des aires de jeu.
Voilà.
Exactement. Chien. Vous avez bien résumé. Chien.
Et tout à fait ça. Il faut mettre en place des aires de jeu, comme vous avez des aires de jeu pour enfants. Je laisse parler là-dessus.
Juste, on a eu beaucoup de retours là-dessus. Historiquement, il y a la fermeture de certaines zones dans les villes par rapport à proximité des enfants est apparue de plus en plus fréquente. Du coup, les villes ont créé des espaces fermés, des espaces de liberté, canins. Ce qui se passait, donc, rapidement, les gens, ils ouvraient la porte, vu que c'était fermé, le chien gambadait, il y avait des crottes partout. Et la ville nous disait, mais les jardiniers, ils n'en peuvent plus. Et je crois que vous avez tous plus ou moins eu ces échos-là. La raison est logique, c'est qu'à partir du moment où ces espaces ne sont pas ludiques, attractifs, comme un parcours de santé, le maître, rapidement, il va laisser son chien gambader, il ne va pas s'en occuper. Si on le rend actif, dynamique, en créant un espace d'activité, on parlerait de parcours santé, en plus c'est bon, le maître va jouer avec son chien, il y a une relation, une interactivité. Vu qu'il marche avec le chien partout dans l'espace, il va le respecter. Vous mettez une bande propreté à l'entrée et il va respecter l'espace. Et on l'a déjà testé et ça apporte un vrai plus. Exactement. Mais avec des jeux modèles standards adaptés de toute race de chiens. Voilà.
D'accord. On l'a fait sur Avignon, avec Vinci, les autoroutes sur les aires d'autoroute.
On est en train de le mettre en place avec Vinci.
Et là, c'est une réponse réellement favorable, parce que c'est une réponse au propriétaire du chien, parce qu'on a valorisé son chien, il peut jouer avec le chien, il rentre. Et puis pour les non-propriétaires également, c'est une solution quand même intéressante.
Alors, il faut quand même de l'espace. Est-ce qu'à l'extérieur, il y a moins de crottes?
Ah oui. Il faut des solutions aussi à l'extérieur, c'est pas une des solutions.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que dans les villes, comme Arras, où il y a ce type d'aire de jeu pour chiens, à l'extérieur, il y a moins de crottes que précédemment, qu'avant qu'il y ait l'aire de jeu.
Non, chez Arras, justement, il n'y a pas d'aire de jeu.
Ah, bah j'ai cru que c'est...
Là, justement, c'est fermé et
Ah oui. Pour ceux qui ont ça. Oui, et à Thionville, vous avez dit
qu'il y a moins de... Oui, Avignon, en tout cas, oui, c'est sûr.
Thionville, ils sont super contents de ce projet-là et de l'aménagement. Ouais. Et c'est surtout pour répondre à l'interdiction d'un côté et aller ouvrir d'autres espaces qui étaient très pollués et qui vont devenir moins pollués. Ça ne va pas résoudre vos points critiques de la ville où il y a des chiens qui crottent, où ils ont l'habitude d'aller. Oui. Il faudra les traiter, hein, c'est indépendant. Vous n'allez pas vous dire c'est ça qui va faire tous les chiens vont aller là et j'aurais plus de crottes ailleurs. Ça...
Oui, mais d'un autre côté, sur la route urbaine du Grand Nancy, il n'y a aucun espace, à part le parc de Vendeuvre où il y avait un petit truc, il n'y a aucun espace pour les chiens.
Où on peut, lâcher
où les, on peut les lâcher, autre que les crétinins qu'on appelle des espèces de liberté là, sur Nancy qui sont faits pour des chihuahuas. Quand on a des chiens normaux, il n'y a que cet espace-là. Et donc,
parce que les chihuahuas, ils sont pas normaux.
Tu peux dire un chien haut comme ça. Et donc, sur le parc de Lambani, par un moment, il y avait un espace.
Ah oui, par un moment.
Il n'y est plus peut-être. Enfin, je travaillais avant Echo, mais...
Non, il n'y est plus. Voilà, c'est ça le problème, c'est par un moment, il y en a eu, et puis maintenant, il n'y en a plus. Ce qui fait que quand on veut lâcher son chien, il faut aller en forêt.
On a une idée que bien que ce soit interdit en forêt. Si on tombe sur l'ONF, ils ne sont pas trop d'accord.
Le coût monté à barque, le coût en moyenne entre 3 000 et 4 000 euros.
En fait, ce qui n'est pas normal, c'est par exemple pour les autoroutes, l'automobiliste qui va payer. Hein,
le début d'un parc avec 4 espaces, c'est 3-4 000 euros.
Et puis que tout le monde paye pour des chiens, quoi, c'est ça. Alors que.
Oui, mais comme on avait vu tout à l'heure.
Il y a des personnes qui n'ont pas de chiens. Et il y a des personnes qui ne fument pas et pourtant payent bien pour tout ce
qui nous fait chier. Oui, je veux dire
on ne peut pas aller dans le raisonnement là, parce qu'à ce moment-là, sinon, pas d'enfants, je ne veux pas payer pour les écoles.
Oui, après, voilà.
Et puis on a dit, le chien a quand même un
défaut.
Le chien a des bienfaits aussi pour l'homme. Il y a quand même pas mal de personnes dans vos communes qui sont seules ou des personnes âgées.
C'est pas pour rien que dans les milieux urbains, il y a un chien par personne, quasiment.
Voilà.
C'est pas pour rien.
Oui, c'est sûr, ça comble un peu la solitude. Et donc, c'est difficile d'avoir ce raisonnement.
Les autres initiatives, et après, on peut débattre.
Voilà, on est là. Et donc, donc ça, c'est des aires de jeu. Donc, là. Voilà, les balades citoyennes aussi, c'est un rendez-vous. Par exemple, sur Lyon, ils ont un rendez-vous hebdomadaire toutes les semaines. Il y a une balade citoyenne. Qui... Il y a des balades citoyennes qui sont organisées avec un animateur. Donc ça permet de sensibiliser les propriétaires et les non-propriétaires et d'aider à l'intégration du chien dans la ville. Et c'est vrai qu'en partant de ce concept-là, les propriétaires vont être vraiment beaucoup plus responsabilisés et ramasseront davantage les élections. Et ça peut être fait dans des grandes villes, mais ça peut être fait dans des petites communes. Bien au contraire, d'ailleurs, je pense que dans des communes, ça peut être beaucoup plus facile à réaliser ce genre d'actes. Bien sûr, il y a la journée de l'animal citoyen également. Là, on a fait ça à Lens au mois de mai. Et donc, lors de ces journées, comme disait madame, bon, là en ce moment, il y a des élections, je ne comprends pas, mais donner des étuilettes, donner des sacs. Et pour ouvrir le débat, voilà, on a fait, il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre, sur Nevian, donc des affiches, journée du chien citoyen, donc avec la matinée distribution de sachets, d'étuilettes, bien sûr, et une opération de dessin d'enfants, comme vous l'aviez fait dans les écoles,
opération dessin d'enfant, j'aime mon chien. Donc, faire participer les écoles à cette manifestation.
Voilà. Mais j'ai une question par rapport justement à ces journées du chien citoyen. Enfin, je trouve ça extrêmement intéressant. Cependant, je me pose la question de savoir si ce n'est pas les mêmes personnes qui vont dans les clubs canins et qui ramassent déjà les crottes de leur chien qui vont aller à ce genre de journée. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui, dans la journée, peut attirer les personnes qui ont un chien qui n'est peut-être pas encore très citoyen ? Enfin, voilà, est-ce que les dessins d'enfants, voilà, ça me semble intéressant pour travailler avec les écoles, mais je me dis, le fait de dire on donne des cadeaux va peut-être plus attirer les gens qui.
C'est un axe.
Voilà, enfin,
il faut trouver des sponsors. Alors, vous voyez, il y en a un.
Oui, alors, c'est ce qu'ils ont fait là. Voilà, oui, t'as fait ça.
On attire souvent
soi-même
les responsables. Oui. Parce que les gens responsables, ils ont.
Ils ont besoin de cadeaux.
Non, enfin, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va les motiver. Tandis que dès que vous amenez des cadeaux, en général, c'est justement les gens qui vont chercher, comme par toujours, de trouver une astuce pour ne pas payer ci, pour ne pas payer ça. Et on peut quand même, à mon avis, réussir à passer quelques messages, même si ça.
Et sont des journées totalement gratuites hein, pour le propriétaire.
Oui,
il y a le côté bouche à oreille, il a tout à gagner. Voilà, ça sera peut-être les gens responsables, mais après, ça.
Puis là, par l'intermédiaire des enfants, le fait que les enfants entre eux, pourquoi t'es pas venu, pourquoi t'as pas amené ton chien, voilà, ça peut être.
Ça, c'est une toute petite commune, Nétion.
Ce que je veux dire, c'est que ce genre d'initiative, toutes les communes peuvent le faire. À plus grande envergure, comme Lens, qui est une grosse commune, dans la journée éco-citoyenne, la journée propreté. Névian, c'est une petite commune de 1000 habitants, et ils ont fait leur propre événement, animé avec un club local aussi. Ils font intervenir. Enfin, voilà. Après, justement, on anime tous les acteurs. C'est un peu la journée point d'orgue dans votre plan d'impact et de communication.
Mais ça, c'est
sponsorisé, hein. Je voulais juste conclure. Après, chacun pourra intervenir. Une notion, nous on parle de notion vision 360 degrés. Je pense qu'on a essayé de vous donner. Il n'y aura jamais de 100%. Il faut multiplier les axes, donc l'axe communication, l'axe verbalisation, l'axe traiter ce qu'on appelle les points d'urgence avec des solutions extérieures, ça nous paraît important. En associant avec de l'intérieur, c'est des où les gens les éduquer à venir chercher aussi. Il faut allier toutes ces choses-là ensemble. Pour optimiser votre impact. Et aujourd'hui, quand même, par rapport à il y a quelques années, on voit qu'il y a des vrais effets positifs. Et aussi, ce qu'on disait, mettez un peu vos indices de propreté. Parce qu'on entend trop souvent, ouais, je ne sais pas trop si ça marche, mais il n'y a pas de mesure. Et c'est important de mesurer. Donc vous faites sur des zones critiques, vous mesurez le taux de déjection 15 jours, un mois avant, combien on en trouve par jour. Vous mesurez après. Je pense que c'est vraiment important de visualiser l'effet. Il ne sera jamais à 100%, mais honnêtement, il peut être quand même intéressant. Ouais, juste pour conclure sur ces éléments, ceux qui veulent intervenir, témoigner, on vous donne la parole.
Oui, on est en train de parler justement pour la prévention, mais il y a peut-être une autre solution qu'on n'a pas envisagée. Certes, on a des fabricants de croquettes. Ces gens-là vendent par kilo, par 5 kilos, etc. Pourquoi on ne les imposerait pas en fonction de la consommation d'un chien sur un kilo de croquettes? Pourquoi ne mettraient-ils pas, par exemple, 10 sachets? Ils mettraient 10 sachets dans la boîte de croquettes. Ça permettrait déjà d'une part aux communes que ça soit moins coûteux. Et pourquoi on ne part pas sur ce principe-là? On le fait pour d'autres choses, si vous permettez. Je pense que les dames, vous savez, on le fait pour d'autres choses.
Le problème, c'est que j'ai posé la question hier, c'est que l'image des fabricants de croquettes.
J'ai travaillé pour ces sociétés pendant 15 ans, donc c'est des grands groupes. On les connaît bien, on les voit encore pour d'autres dossiers. Donc on les a consultés là-dessus, puisqu'en tant que leader, on est quand même assez sensible à. Ils ont une très forte sensibilité à associer leurs aliments, qu'ils considèrent tous comme haut de gamme, bon pour la santé, avec la déjection. Ils ont un frein, mais total. Et aujourd'hui, nous, on leur a dit, voilà, alors ça commence, il y a eu quelques expériences, je crois que c'était une société qui s'appelle, je ne sais pas si on peut citer les noms de société, mais qui s'appelait Yams Caliba, où ils ont marqué, ils ont logoté des sacs en action avec une commune, c'était en Suisse, je crois, j'ai vu passer ça, mais ils ont un énorme frein par rapport à leur image, à associer la crotte de chien avec leur produit. Voilà. Donc je ne vous cache pas qu'on les a consultés.
Voilà.
Juste pour répondre, mais c'est un exemple. J'ai travaillé dans ces sociétés-là, et c'était un message qu'on véhiculait en plus. Et on disait, un aliment de très bonne qualité, on va réduire le taux de crotte, puisqu'il sera plus digestible, par moitié, avec des crottes beaucoup plus moulées, donc plus facile à ramasser. Je suis concret, hein, excusez-moi. Mais donc c'est une réalité, je connais bien le dossier, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un vrai frein d'image. Si vous pouvez les influencer, ça serait une bonne chose. Nous, on est vraiment partout.
Je crois plutôt que c'est par intérêt pour ces sociétés-là. Le but, c'est de vendre, mais de ne pas subir. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, on peut parler également de la taxe pour les chiens, mais on devrait penser que ce n'est pas la peine de mettre une taxe pour les chiens, puisque au travers de l'achat de consommation, on paye déjà plus ou moins un impôt. Voyons donc les différentes sociétés pour faire en sorte qu'elles fassent ce qu'elles doivent faire.
La taxe sur les chiens, ça risque d'inciter le suivant à ne plus les déclarer, non ?
Pas déjà maintenant.
Ça serait une action plus au niveau gouvernemental, hein, je pense, pour mettre un levier.
Alors, il faudra inventer des vignettes ou
une vignette.
C'est pas pédéralogique.
Oui, puis je ne sais pas si la culture française, parce que c'est vrai qu'en Belgique, ça fonctionne, hein, ça fonctionne plutôt bien.
Et en Belgique, le vote est obligatoire et les électeurs sont pénalisés s'ils ne vont pas voter. C'est une autre démarche.
Mais bon, on n'a pas la même...
C'est dommage.
C'est vrai que c'est... Et en Suisse, on disait que c'était plus propre en Suisse. Pourquoi
est-ce que Parce que les sont beaucoup plus sévères.
Pourquoi est-ce qu'en Allemagne, les files d'attente, on les respecte
C'est ça. En Suisse, ils ont démarré les solutions de propreté. En France, on a vu apparaître les solutions de propreté. Donc d'abord les canicides, historiquement, et après tous les systèmes de sac, ça a démarré, on va dire, une quinzaine d'années maximum. En Suisse, ça fait déjà plus de 25. Ils sont initiateurs de cette propreté. Il y a énormément de points de distribution partout. Et c'est vrai que c'est pas du tout. Il n'y a même pas de prélèvement unitaire, ils n'en ont pas besoin. Les gens respectent. Mais voilà, c'est pas la même approche. On ne peut pas utiliser les mêmes produits.
Les gens n'ont pas la même mentalité.
Mais par contre, c'est très propre et il y a beaucoup de points de distribution partout. Et c'est depuis très longtemps.
Si on parle de l'étranger, moi j'avais un reportage aussi intéressant sur le Japon, je crois, où ils ont lancé une nouvelle. Un nouveau produit, c'est permettre aux gens de promener des chiens. Pour ceux qui n'ont pas la capacité d'en acheter un, ils payent une petite location pour promener un chien pendant une heure ou deux. Et lorsqu'on leur confie l'animal, ça peut être un chien, je ne sais pas, un chat, on leur donne aussi des sachets pour ramasser les crottes et une sorte de gourde remplie de produits désinfectants pour que là où l'animal va uriner, il puisse désinfecter le sol à cet endroit-là. Et je pense que c'est le genre de leçon qu'on devrait intégrer aussi dans la démarche.
Au Japon.
C'est un peu plus loin, mais les Japonais étaient plus exposés. Ouais, je sais pas. Là, sur les locations de chiens, oui, on a des locations
pour avoir ça.
Il y a madame qui veut.
Moi, je voudrais poser une question aux gens qui représentent tout ce qui est police municipale, etc. Est-ce que vous pratiquez la verbalisation? Est-ce que ça pose des problèmes? Nous, visiblement, ça pose des soucis, ne serait-ce que d'identification du maître, c'est ça? Voilà, l'identification du maître.
Il faut tomber dessus. Nous, on ne fait pas les recherches ADN. Il faut tomber sur la personne et en général, quand on leur dit de ramasser, ils ramassent parce qu'on ne verbalise pas. Le tout, c'est de faire cesser l'infraction. Donc, du moment qu'ils ramassent, on ne verbalise pas. Et c'est extrêmement rare que. Enfin, si, bon, on m'a dit une fois, vous n'avez qu'à le faire et deux minutes après, ramasser les mêmes, ça
compte. Alors, si on ne fait pas de verbalisation, c'est de la facturation. Ça coûte 58 euros la déjection. C'est en application d'un arrêté couvert de 2003 et on en fait une dizaine par an parce que l'idée de nos collègues policiers municipaux tomber dessus, c'est pas évident. L'idée c'est quand même plutôt la médiation.
Merci à vous. Nous, on partirait un peu comme la ville de Nancy. Hein, sur,
pas une verbalisation, mais effectivement d'une prestation de nettoyage. J'avais eu Eric Ronsalin. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est l'identification du propriétaire. Hein, nous, on n'est pas habilité à vérifier l'identité, donc on va être obligé d'éditer un titre de paiement à l'identité qu'on va nous donner.
Alors, sur 10 ans de pratique à Nancy, on a eu 2 usurpations.
Oui, c'est ce que Eric m'avait dit. Parce que, si on appelle un OPJ pour dire bah, j'ai un propriétaire de chien qui ne veut pas me donner son identité.
Les gens savent pas trop, vous n'êtes pas même de les identités, les gens
ils donnent. Oui, souvent ils les donnent, mais bon, c'est pas. Mais c'est vrai que quand on s'était posé la question aussi, mais j'ai cru comprendre. Enfin, je pense que comment obliger aussi les gens, les propriétaires de chiens, quand ils sont sur la voie publique, à avoir des sachets pour ramasser.
C'est toute la difficulté donc, par rapport à Nancy, c'est ce que je mettais dans l'évaluation. Je crois qu'à Nancy, par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, on est vraiment au top. Quoi. Parce qu'on a des espaces de liberté, si petits soient-ils, on en a 2. C'est vrai qu'ils sont...
Ah bon, ils sont il y a
certains cas de quand même. Alors, on a 270 distributeurs de canisac. On est en train de les modifier, puisqu'on avait des distributeurs à l'atelier.
Allez du côté du parc de la Cure d'Air, il n'y a jamais de sac.
Non, mais puis il y a des virus.
Arrêtez de dire que vous êtes au top, alors.
Ouais, il ne faut pas dire ça.
Alors, je dis juste, on est au chat, parce qu'il a été présenté ce matin. On fait tout ce qu'on peut faire. On distribue quand même 2 millions de canisacs par an sur la ville de Nancy. Donc M. Rigoni ne nous dira pas le contraire, parce qu'on achète les sacs chez lui. C'est quand même quelque chose de conséquent. Par rapport à l'information, il y a des informations qui sont faites régulièrement. La journée d'accueil, pour reprendre madame, on y participe samedi. On donne les petits éculaises. Bon, ils ne ressemblent pas tout à fait à ça, mais... ressemble beaucoup quand même. On donne les petits jeux de tarot qui sont là-bas. Au niveau des sacs, maintenant le grammage est plus petit. On va voir si on peut diminuer la taille. Par contre, au niveau de la cure d'air, ben, on va regarder. Peut-être qu'il y a un manque sur cet espace-là,
merci.
Sans doute. Mais je pense que 270 distributeurs sur la ville de Nancy, c'est quand même une très bonne répartition.
Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a des poubelles pas loin.
Alors justement,
à moins de 150 mètres à chaque fois, ça c'est bien.
Alors à chaque fois, on essaie de mettre en fait, un distributeur une corbeille. C'est vrai que c'est contraire à ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on se dit que le maître, il prend le canisac. Voilà, il y a la poubelle en dessous, ça peut lui rappeler aussi de faire le bon geste. Mais c'est vrai que c'est ben, de tous les instants. Quoi, hein. À chaque fois, il faut remettre... à jour la communication, il faut recommencer les actions de médiation, etc. C'est un sujet compliqué.
Je me rappelle.
Ouais. Par contre, on disait 2 millions de sacs, 240 distributeurs, on est à 7-8 000 sacs par
distributeur.
Donc ça fait 7-8 000 sacs par distributeur par an. On retombe sur les chiffres que je vous donnais tout à l'heure.
Sachant que
par contre, il y a peut-être des zones qui sont moins.
Le représente à peu près 38 000 sacs sur les vraiment centre-ville et. Les distributeurs les plus utilisés, on est à 38 000, 40 000 sacs quasiment.
Et les moins, ça va être 1 000, 2 000 jusqu'à.
Après, c'est là toute la difficulté au niveau du remplissage par tournée. Il faudrait quasiment faire du cas par cas. Et c'est là la même difficulté où on peut se retrouver très facilement avec un jour où un distributeur est vide alors qu'il a été rempli le jour d'avant ou autre.
Il y en a 3 dans ce secteur. Hein. Mm-hmm. Ils sont vides hein, toujours. En même temps, donc
juste les enjeux entre une grande ville et une plus petite commune ne sont pas les mêmes. Eux, c'est aujourd'hui le plan de tournée pour, en fonction de la sortie des sacs, qu'ils soient remplis à la bonne fréquence, parce que c'est des ressources humaines, donc ils ont une problématique, on pourrait dire des ressources humaines, une vraie problématique de gestion de personnel et de remplissage qui est difficile.
Ça représente 3 tournées différentes sur l'ensemble de la ville, donc 3 agents mobilisés pendant quasiment une journée sur cette mission, c'est tout des coûts et des coûts supplémentaires de gestion humaine.
Importante.
Alors j'ai 2 questions en fait. La première c'est est-ce que vous avez des retours d'expérience sur le fait de distribuer des sacs un petit peu à la demande. Je pense par exemple sur le Grand Nancy, je sais qu'au niveau des sacs pour les ordures ménagères, c'est distribué une fois dans l'année et ensuite on peut éventuellement la maison de la propreté aller en chercher si on en a besoin. Donc ça c'est la première question, savoir si vous avez des retours là-dessus. Et par rapport aux tournées, je me dis, est-ce que c'est des tournées qui sont exclusives canisac, qui sont dues au fait que vous avez un très grand nombre de points, mais sur les plus petites communes, ça pose peut-être moins de problèmes parce que le remplissage des canisacs est fait en même temps qu'autre chose, enfin qu'une tournée. J'imagine que dans les plus petites communes, c'est comme.
Mais là, les personnes qui viennent fermer les parcs, comme par exemple le parc de la Cure d'Air, ils pourraient aussi remettre des sacs quand il n'y en a plus, hein, plutôt que d'avoir un aller-retour systématiquement.
C'est toujours la difficulté, c'est que donner une liasse de sacs de la déjection à un garde municipal qui est en tenue, qui va ouvrir le... On rentre après dans toutes les difficultés, un policier municipal ne va pas s'amuser à remplir un distributeur. Les personnes qui ferment les parcs sont soit gardes municipaux, soit policiers municipaux. On rentre après dans toute une question d'éthique d'image.
Ah oui, mais c'est rendre service à la population.
Ouais, c'est une démarche citoyenne.
Voilà, c'est une démarche citoyenne.
Au-delà de la démarche citoyenne.
Je vois pas pourquoi il n'y a rien de dégradant.
Non, parce que dans ce cas-là, on est dans dégradant quand on ramasse nos crottes. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord.
Il suffit de faire un test. Quelqu'un prend en photo un garde municipal en train de tirer les poubelles du parc. Quelque chose tout simple. La photo circule sur Facebook, vous avez un appel du préfet et ça prend...
Je suis tout à fait d'accord avec monsieur.
Honnêtement, on a déjà eu des discussions avec la police municipale à ce niveau-là. Toucher une poubelle, toucher quoi que ce soit qui pourrait dégrader l'image...
Dans ce cas-là, tant qu'on sera là-dedans, effectivement, vous aurez des difficultés.
Non, mais tout à fait. Dans le fond, je suis sur le principe, je suis d'accord avec vous.
La réalisation, des fois, ça pose problème aussi avec la police municipale. Je suis sûr que...
Je voulais peut-être juste répondre à la question 1. Juste répondre à la question 1, après je vous passe la parole. Des communes, je pense à Arles notamment, qui ont la double expérience, c'est-à-dire qu'ils ont mis les points critiques des distributeurs à l'extérieur. Je crois que c'est une ville de Arles, 50 000 habitants, il doit y avoir 40 points à peu près, donc ils sont pas loin de... Plus, ils ont, en même temps qu'ils distribuent les sacs corbeilles propreté, et ils l'ont instauré, aux propriétaires de chiens en plus, ils notent les noms, ils les repèrent. Ils leur donnent donc des sacs en liasse pour qu'ils donc ils le font. Ils en sont très satisfaits. Donc on parlait tout à l'heure d'opération 360 degrés, de mélanger intérieur-extérieur. C'est une forme, une approche. Soit on fait d'intérieur en mettant des points de distribution, mairie, annexe, syndicat d'initiative, vétérinaire, toiletteur, les gens qui voient les chiens. On peut aussi le faire sous cette forme-là. C'est une autre forme, ou les deux, voilà, qui est intéressante et qui est gérée. Enfin, je connais cette commune, mais par d'autres communes aussi. Donc c'est positif.
Et la commune qui a identifié les propriétaires de chiens lors des nouveaux arrivants envoie des courriers personnalisés en fait à chaque propriétaire de chien pour des actions de ce type, des actions de pomme, pour leur dire de venir chercher des sacs, etc. Donc là, ils ciblent vraiment le...
Et action de marketing très ciblée, intéressante.
C'est assez intéressant parce que ça fonctionne bien.
Il y a monsieur qui a été avant.
Allez-y. Merci. Et vu le tour que prenait cet échange verbal, moi, je vais vous faire la réflexion qu'on nous fait régulièrement en conseil de quartier. Je pense que c'est essentiellement des gens qui n'ont pas de chien. Ils disent, mais les gens qui ont des chiens, ils ont les moyens de s'acheter un chien, ils ont les moyens d'aller chez le vétérinaire, est-ce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter eux-mêmes leur sac? Parce que c'est toujours trop facile de dire, tiens, la collectivité, mettez des sacs, ramassez les crottes. Je pense qu'on a beaucoup d'habitants qui n'ont pas votre avis, madame, et ils pensent que, effectivement, les propriétaires de chiens pourraient au moins s'acheter quelques sacs et les avoir sur eux.
C'est ce que je fais, parce qu'il y a
Apparemment, vous souhaitez, parce qu'il n'y en a pas assez comme vous y passez. Mais si vous en avez quelques-uns dans votre poche, vous n'avez plus à faire ce type de réflexion.
Vous avez un chien, vous ?
Non, je viens de vous rapporter ce que
vous... Non, mais est-ce que vous avez un chien ?
Non, j'ai pas de chien. Okay. J'ai pas de chien, mais moi, j'estime que dans le quartier, je ne sais pas comment on en a un peu parlé, je dirais qu'il y a 80% des propriétaires de chiens qui ramassent leurs crottes, et seulement peut-être 10 ou 20%.
On a une boutique en ligne chez Animaux Concept, au moins il y en a d'autres certainement, où on vend effectivement des sacs, quelquefois pour les particuliers.
Là, c'est un débat. Là. Pour les sacs des ordures passagers, on pourra appliquer ça aussi.
C'est un peu la même chose. Il faut un peu tout mixer.
Avant, il y avait des sacs gratuits dans les supermarchés. Après, il y avait
quelque chose.
Moi, je me pose la question sur une communauté, sur une commune comme la nôtre de Maxéville, qui dépend de la communauté urbaine de Romancy, c'est elle qui distribue les sacs poubelles pour les ordures ménagères, alors que c'est la commune qui s'occupe des canisacs. Alors, le système que monsieur a parlé de distribuer des canisacs en même temps que les sacs d'ordures ménagères, je trouve ça très bien, mais c'est comment on fait, nous, alors qu'on fait partie d'une communauté de... urbaine, et que les canisacs, c'est la mairie.
Il faut transférer la compétence.
Je pense qu'il y avait la compétence.
On transfère la compétence à la CUP. Votez.
Avec la police.
Je voulais revenir sur le rôle des policiers municipaux parce que chez nous, c'est au bureau de la police municipale qu'on distribue les sacs pour les chiens. Et ça ne pose pas tellement de problèmes parce que les gens savent aussi qu'ils sont responsables de faire respecter cette règle. Donc ça paraît logique que celui qui à la fois fait respecter la règle puisse donner les moyens de la prévention. Et en termes d'image, moi, ça ne me paraît pas plus choquant que ça, en fait. Voilà.
Merci beaucoup, merci à vous de cette fructueuse réunion de travail. Merci à Vivon Concept pour avoir animé cette réunion.
Il y a une
fiche d'évaluation si vous voulez bien la remplir. Et puis, comme d'habitude, le support de séance sera disponible sur le site internet. Et puis, vous avez des questions, vous l'enverriez. Et la prochaine date, c'est l'Assemblée Générale pour les élus le 12 octobre.